7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 mai 2019 et l'homme du jour, c'est Cédric Villani. Le mathématicien et député LREM présente un rapport explosif sur le glyphosate aujourd'hui au Sénat. Que dit vraiment ce texte alors que le co-rapporteur a lâché que le glyphosate était moins cancérogène que la charcuterie? Cédric Villani est avec nous. À 7h45, nous entendrons aussi ce qu'en dit le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, invité à 8h15. Dans le couple franco-allemand, la vie n'est pas tous les jours très rose. Dans plusieurs quotidiens européens, Angela Merkel reconnaît avoir des confrontations avec Emmanuel Macron. Explication tout à l'heure dans le journal de 8h. Cannes, son Fast, ses stars, la Croisette et l'argent. Le business festival, les contrats fusent, notamment avec les plateformes comme Netflix. Enquête dans 20 minutes dans Europe 1 va plus loin. La French Tech au goût du jour. Europe 1 s'installe à Station F cet après-midi à 17h en marge de Vivatech. Émission spéciale avec Mathieu Béliard. Mais cette French Tech, combien coûte-t-elle? Combien rapporte-t-elle? On voit ça tout à l'heure avec Nicolas Barré. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce 7-9. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi 16 mai. Excellent réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
À 7h, le journal Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À l'actualité ce matin.
Après les radars embarqués, place aux drones expériences hier dans l'Essonne où le petit engin a piégé des dizaines de motards. Reportage dès le début de ce journal. Quand Patrick Balkany fait son show, jugé pour fraude fiscale, le maire de Levallois a été longuement entendu hier. J'ai horreur de la corruption, a-t-il lancé. Et puis, où peut-on manger la meilleure baguette de France? Vous le découvrirez dans ce journal. Un indice, c'est dans le Doubs.
Europe 1. Il est de plus en plus difficile d'échapper au contrôle sur les routes. On a déjà parlé des nouveaux radars ultra performants. Eh bien, les forces de l'ordre ont trouvé une nouvelle arme pour piéger les motards qui roulent trop vite ou passent les lignes blanches, le drone. Une expérience menée hier dans l'Essonne, sur une portion de l'A126 où on enregistre de nombreux accidents. Hélène Tarzian a pu y assister pour Europe 1.
Ça décolle.
Joystick à la main, un CRS dirige le drone relié à sa tablette, puis zoom sur l'écran.
Donc actuellement, on a une moto qui vient de commettre une infraction. Chevauchement de ligne continue, casque noir.
Oui, bien reçu, une moto pour franchir.
À quelques mètres au bord de la route, c'est un autre agent qui réceptionne Quentin sur sa moto.
Voilà, il arrive sur nous et on le garde gentiment.
Vous avez fait l'objet d'un contrôle, monsieur, par un moyen aérien. À l'occurrence, un drone.
Un drone, première fois que je vois ça, c'est un piège, quoi, ici. Toujours plus de contrôle, c'est un peu agaçant. Elle est où la limite, quoi? C'est la jackpot pour eux, genre, je sais pas combien je vais prendre, là, mais...
Eh bien, 90 euros et 3 points en moins, comme lui. En l'espace de 2 heures, plus de 30 motards sont verbalisés grâce au drone sur cette zone à risque et difficile à contrôler. C'est 10 fois plus efficace avec cet instrument, selon le commandant Jean-Marc Ruiz.
C'est un amplificateur pour les yeux de l'agent verbalisateur. On peut voir à plusieurs centaines de mètres, voire un kilomètre ou deux. C'est sur des écrans, donc ça permet de voir clairement. On peut, à titre pédagogique, montrer aux contrevenants les images pour faire taire toute contestation. C'est un outil qu'on va intégrer à nos futures opérations.
Un dispositif qui est amené à être déployé sur un maximum de départements.
Hélène Tarzian.
C'est un rapport dont on parle depuis le début de la semaine. Rapport parlementaire sur le glyphosate officiellement dévoilé cet après-midi.
Et les fuites dans la presse ont déjà provoqué de nombreuses réactions, notamment cette phrase que vous rappeliez, Pierre. Le glyphosate n'est pas plus cancérigène que la charcuterie. Et pourtant, Ève Roger, vous avez pu parcourir ce rapport pour Europe 1. Il ne faut pas attendre de conclusion sur la dangerosité de l'herbicide pour notre santé.
Dangereux ou pas pour la santé, ne cherchez pas de réponse à cette question, le rapport ne la pose pas. Les parlementaires cherchent surtout à comprendre comment les agences sanitaires françaises et européennes travaillent pour évaluer les risques pour l'homme des additifs alimentaires, du bisphénol A, des ondes électromagnétiques et bien sûr du glyphosate. Et justement, ils s'interrogent. Comment se fait-il qu'en 2015, le Centre de recherche contre le cancer, une agence de l'OMS, puisse classer l'herbicide comme cancérigène probable pour l'homme ? Contrairement à la plupart des agences sanitaires européennes et même mondiales, provoquant ainsi la cacophonie qu'on connaît aujourd'hui. Deux éléments de réponse. D'abord, ces instances n'ont pas travaillé sur les mêmes sources, c'est-à-dire les mêmes études. Ensuite, ils n'en ont pas fait la même interprétation. L'agence d'évaluation européenne, l'EFSA, semble en effet, conclut le rapport, avoir eu besoin de plus de preuves que le Centre de recherche contre le cancer pour établir un lien significatif entre cancer et glyphosate.
Et on y revient donc à 7h45 avec Cédric Villani, député de la majorité. C'est lui qui présente ce rapport aujourd'hui au Sénat.
Europe 1, il est 7h04.
Les européennes, c'est dans 10 jours, le 26 mai, dans les bureaux de vote, on manque d'assesseurs.
De nombreuses municipalités en appellent aux bonnes volontés pour venir prêter main forte le jour du scrutin, mais les candidats ne se bousculent pas, surtout dans les petites communes. Justin Morin s'est rendu à Buc, près de Versailles, dans les Yvelines.
Ce n'est pas faute d'avoir communiqué. À Buc, l'appel à toutes les bonnes volontés fait la une du site internet de la mairie, s'affiche aussi sur les panneaux lumineux. Mais le maire Jean-Marc Lerudulli a quand même l'impression de crier dans le désert.
Là, il y a une seule personne qui s'est présentée. Ça en dit long. Vraiment, les gens sont désintéressés. Alors ça se répercute sur notre demande d'assesseurs. Et ça, c'est très dommage.
Il faudrait au minimum 10 assesseurs pour les 5 bureaux de vote. Et encore, ça voudrait dire qu'il reste de 8h à 20h. L'idée, c'est plutôt de se partager la journée. Mais même là, tous les habitants que j'ai croisés ont tous quelque chose à faire.
Je préfère tondre mon gazon.
Vous, être assesseur, non ? Ça vous intéresse pas ?
Non. Non, non, j'ai d'autres préoccupations.
Non. J'ai déjà assez donné dans ma vie. Place aux jeunes.
C'est la fête des mères.
Ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'ai juste une heure pour aller voter le matin, donc je vais aller à l'ouverture des bureaux. Sachant que je ne sais pas encore qui, parce qu'il y a 34 panneaux, mais il n'y a toujours rien dessus. Et je suis incapable de vous dire qui se présente, à part les quelques têtes de liste qu'on entend, le reste. Donc voilà.
Qu'à cela ne tienne, le maire compte désormais appeler directement par téléphone amis, connaissances, membres des conseils de quartier pour les convaincre.
Justin Morin. Et sur fond de campagne européenne, la querelle franco-allemande apparaît au grand jour. Angela Merkel reconnaît des confrontations et des différences de mentalité avec Emmanuel Macron. Du côté de l'Élysée, on dédramatise en parlant de confrontations fécondes. Et puis c'est une journée importante pour les 800 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens. Les prud'hommes rendent leur décision sur leur licenciement qui avait donné lieu à un bras de fer de plus de 6 ans. Les salariés contestent le motif économique et demandent réparation.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal d'Hélène Zélani. L'interrogatoire de Patrick Balkany hier devant le tribunal correctionnel du grand spectacle.
Il est 7h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Et hier, c'était le Balkany Show devant le tribunal correctionnel de Paris.
Oui, 4 heures d'interrogatoire pour le maire de Levallois, poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. À la barre, il a été fidèle à lui-même, comme nous le raconte Salomé Legrand.
Il a carrément réclamé de faire sa propre introduction. Une longue litanie d'héritage en millions de francs, de parts immobilières et de ventes de meubles. « J'ai horreur de la corruption », tonne Patrick Balkany. « Cet argent qu'on a dépensé, c'était notre argent ». À l'aise dans le prétoire qu'il traverse de temps en temps à grands pas déterminés, il répond aux questions du tribunal en osant tout. Les blagues, les tacles, l'indignation et même l'apitoiement. À l'entendre, Giverny n'est qu'un vieux moulin dans son jus, avec une piscine en mauvais état et un terrain de tennis décrépit. Même ligne pour la villa Pamplemousse à Saint-Martin, de simples bungalows à demi en sous-sol et même pas en bord de mer. Entre deux gorgées de badois, non sans un clin d'œil cabot à la salle comble, il disserte sur le quotidien 24 heures sur 24 des élus, la Seconde Guerre mondiale et le prélèvement à la source, mais ne manque surtout aucune occasion de se payer ce fisc qui lui prend tout. Se tournant vers l'avocat des impôts, il lance par exemple « Cette administration doit m'adorer. Si tous les mauvais payeurs payaient autant que moi, on n'aurait plus de problème en France. »
Salomé Legrand. Et hier, décidément, Patrick Balkany s'est bien fait remarquer. Avant même l'ouverture de l'audience, son portable a sonné en plein tribunal. Et voilà ce qu'on a entendu.
Non.
Eh oui.
C'est sa sonnerie de téléphone.
C'est sa sonnerie de téléphone. Évidemment, vous avez reconnu les tontons flingueurs. La garde à vue de l'anesthésiste de Besançon prend fin ce matin. Le docteur Frédéric Péchier pourrait encore être mis en examen pour de nouveaux empoisonnements de patients. Parmi les cas suspects, un petit garçon de 4 ans qui a subi 2 arrêts cardiaques lors d'une simple opération des amygdales. Il est aujourd'hui en bonne santé. On va y revenir dans le journal de 7h30.
Vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner. Ça tombe bien, on va parler baguette.
Oui, la finale du concours national de la baguette française se tenait hier à Paris avec 6 finalistes qui représentaient chacun une région. Grand gagnant, Mehdi Courget, qui exerce ses talents à Morteau dans le Doubs. Arthur Elmbaché, vous êtes en ce moment même dans sa boulangerie où tout le monde veut goûter la fameuse baguette.
Oui, bonjour Hélène. Et je pense que quand vous aurez entendu ça, vous allez tous être d'accord avec moi.
Ah ouais.
On est d'accord, évidemment. C'est bien la meilleure tradition. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît une bonne baguette, Pierre-Hélène ?
Pas du tout.
Croustillant ? Non ?
Alors, Dixit Tony, boulanger numéro 2, ici. C'est très technique, qu'elle soit bien alvéolée.
Bien alvéolée, ça doit être des gros alvéoles, donc des gros trous partout dans la baguette en fait. Et avoir une mie vachement jaune. Et là, ça fait une belle baguette quoi.
Des gros trous qui font couler la confiture dans l'assiette.
C'est ça, oui, c'est ça, ouais.
La vendeuse s'appelle Marie, elle a du mal à se remettre de ses émotions depuis le sacre hier soir.
Inimaginable, c'est vrai qu'on faisait confiance à notre patron, on lui a envoyé des ondes positives. Ça va faire du bruit dans Morteau, quoi. C'est un beau cadeau qu'il nous fait.
Philippe est un client qui vient ici tous les matins.
Eh bien, je suis super content pour Mehdi. Et là, ça me fait vraiment plaisir. Ce matin, je suis venu pour savoir s'il avait gagné. Et il a gagné.
Effectivement, il a gagné.
Bravo à lui. D'ailleurs, bravo Mehdi.
Il n'est pas là.
Ah, il n'est pas là.
Maintenant, il fait dodo.
Et oui, le patron revient demain. Il se repose après le sacre, évidemment. Quant à moi, j'ai un plan au top pour ma pause déjeuner. Sandwich, évidemment, avec ce pain-là. Et une saucisse dedans.
Ben oui.
Saucisse. On y est, profitons-en, une saucisse de Morteau. Alors pour ça, j'ouvre la porte, je traverse la rue, parce que juste en face, j'ai découvert ça tout à l'heure, charcuterie, médaille d'or 2019 au concours général agricole. Bref, le meilleur casse-dalle de France.
Vous en avez de la chance, Arthur Elmbaché, en direct de Morteau dans le Doubs. On en veut bien un peu de la baguette.
Et hein. Vous nous laissez les adresses hein, pour que tout le monde puisse en profiter sur europe1.fr. Merci, c'était le journal d'Hélène Zélani.
Et si vous souhaitez réagir à l'actualité, c'est très simple, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et il est 7h11, c'est l'heure, Pierre, de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
Bonjour Carole.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Ne dites pas que vous êtes à Morteau vous aussi.
Non, je suis devant l'école d'un quartier populaire, le quartier Petit Bar Pergola à Montpellier. Vous avez peut-être déjà bataillé pour éviter que vos enfants aillent dans le mauvais collège de votre ville. Eh bien ici, les parents se battent pour que ce système s'arrête, pour que la mixité à l'école ne soit plus seulement une promesse de gouvernement. Ils ont même créé une association de parents d'élèves à laquelle participent Anissa et Fatia.
On veut que les enfants puissent réussir. C'est une question sociétale, là, que l'on soulève à un moment donné. Pourquoi nos enfants n'auraient pas le droit, au même titre que d'autres enfants dans d'autres établissements, de devenir ce qu'ils ont envie d'être et d'atteindre leurs rêves?
Nos enfants aussi, ils sont très intelligents, ils ont beaucoup de choses à apporter. C'est un enrichissement mutuel pour que nos enfants, ils se sentent pas stigmatisés, qu'ils se sentent pleinement inscrits dans les valeurs de la République.
On s'est tu pendant des années. On n'a rien dit pour la génération, notre génération à nous. La génération de nos parents également n'a rien dit. Aujourd'hui, pour nos enfants, pour l'avenir, il est hors de question de se taire.
Voilà pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a des résultats concrets, Carole?
Oui, il y a même une sacrée évolution depuis 4 ans que ces parents d'élèves se battent. Le point de départ, c'est une nouvelle carte scolaire. Subitement, le collège du quartier se retrouve avec 180 élèves. Il y a 900 places. 180 élèves, tous issus des HLM voisins. C'est ce qui met le feu poudre. Les parents refusent de voir leur collège transformé en ghetto et ils parviennent, à force de volonté, à obtenir une section internationale, une filière art de la scène. Et voilà comment, 4 ans plus tard, les élèves des quartiers plus favorisés sont revenus. Il y a désormais 650 collégiens et cette récompense pour Fatima.
Nos enfants, quand ils nous voient qu'on se bat pour... Enfin, c'est ça aussi, c'est ça qui est triste. C'est parce qu'on se bat pour la réussite de nos enfants, on se bat pour que les valeurs de la République soient respectées. Ils nous ont dit, vous êtes les meilleurs parents du monde, quoi. Vous imaginez ? On a tout gagné en fait.
Bon, on a tout gagné, ça veut dire que c'est possible. Mais puisqu'ils ont réussi, Carole, quel est leur combat aujourd'hui ?
Eh bien leur bataille désormais, c'est d'imposer la mixité avant le collège, dès l'âge de 3 ans, pour que l'égalité des chances joue dès le départ. Ses pères, ses mères veulent réussir le même tour de force qu'au collège, en maternelle et au primaire. Ils attendent d'ailleurs une date de rendez-vous avec le rectorat, la mairie et les enseignants pour que tout le monde se mette autour de la table. Ils lancent également un appel à tous les Français pour venir participer avec eux aux états généraux de l'éducation. C'est en novembre prochain à Stains, en Seine-Saint-Denis.
Merci Carole Ferry à Montpellier pour Europe. Europe 1, vous êtes tous et tous les matins à 7h10.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'édito éco signé Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
De quoi parle-t-on ce matin?
Ben, je vais vous parler de la French Tech, ces jeunes entreprises du numérique qui démarrent l'année en fanfare.
Et puis 7h20, la face cachée du Festival de Cannes. On y voit des films, on parle beaucoup de business aussi. Plongé dans les coulisses, au plus près des grands argentiers du cinéma dans Europe 1 va plus loin. Virginie Selmen nous retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Un très bon réveil à tous. Il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Villeneuve.
La garde à vue de l'anesthésiste de Besançon prend fin ce matin, interrogé sur de nouveaux cas d'empoisonnement de patients. Il pourrait être à nouveau mis en examen. Publication aujourd'hui du rapport d'information parlementaire sur le glyphosate, cancérogène ou pas. Il n'y a aucune réponse. À 7h45, nous recevrons le député de la majorité, Cédric Villani, co-rapporteur de ce texte. Les tensions franco-allemandes s'expriment au grand jour. Angela Merkel reconnaît des confrontations et des différences de mentalité cohabiter avec Emmanuel Macron. On en parle tout à l'heure dans le journal de 8 heures. C'est un record pour un artiste vivant. Une sculpture de lapin de l'américain Jeff Koons a été vendue plus de 91 millions de dollars à New York.
Europe 1. Économie maintenant, Pierre, c'est l'édito éco avec la Banque Rhône-Alpes pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Rhône-Alpes, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, Emmanuel Macron va passer la matinée au salon Vivatech, devenu le grand rendez-vous de la tech en Europe. Comment se porte notre Silicon Valley à la française, Nicolas ?
Eh ben bien, Pierre, bien, très bien. Elle est même en très forte croissance sur les 4 premiers mois de l'année. Les startups françaises ont levé plus de 1,4 milliard d'euros, un chiffre en hausse de plus de 70% par rapport à l'an dernier. C'est donc considérable, les investisseurs y croient. À signaler d'ailleurs dans ces levées de fonds, celle de 150 millions d'euros réalisée par Doctolib, qui est un formidable succès et qui porte la valeur de cette entreprise aux ambitions européennes à plus d'un milliard d'euros. Une startup qui vaut plus d'un milliard, vous le savez, Pierre, ça s'appelle une licorne.
Et on en a beaucoup des licornes en France?
Alors, pas encore beaucoup, on en recense 3 autres. Vous avez Blablacar, que tout le monde connaît, Deezer, la plateforme de musique que tout le monde connaît aussi, et puis OVH, qu'on connaît moins, mais qui est une entreprise stratégique spécialisée dans le cloud, c'est-à-dire le stockage de données, la matière première du numérique. Donc 4 licornes, mais derrière, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place avec des levées de fonds de plus en plus importantes. On note une vraie accélération. La French Tech est en train de franchir vraiment un palier, avec de plus en plus de start-up qui lèvent 20 millions, 50 millions, et qui seront les licornes de demain.
Par exemple,
Je peux vous en citer deux d'ailleurs que rencontrera Emmanuel Macron ce matin, dont on a eu l'occasion de parler à cette antenne. D'abord, Frishti, qui est une start-up qui livre des repas préparés et des courses à domicile en privilégiant les circuits courts. Ils ont levé 50 millions d'euros et créé plus de 300 emplois. Et puis, autre succès dans un tout autre domaine, Open Classroom, qui est une école en ligne, mais une école avec 3 millions d'étudiants chaque mois partout dans le monde. Ils ont levé aussi 50 millions d'euros. Vous savez, il faut 2 ingrédients pour créer un écosystème. Il faut du capital humain, les talents, et puis du capital financier. Alors, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de talents et beaucoup de capital dans la Silicon Valley californienne. Eh bien, comme vous le voyez, il y en a aussi de plus en plus chez nous.
Merci Nicolas Barré, l'édito éco, tous les matins sur Europe 1.
Et les métiers d'avenir, l'intelligence artificielle, on en parle en direct sur Europe 1 entre 17h et 19h avec Mathieu Béliard qui sera à Station F pour une émission spéciale. Et vous pourrez d'ailleurs intervenir en appelant le 39 21 50 centimes la minute.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Il est 7h18, Europe 1 va plus loin, direction Cannes ce matin, Pierre. Alors on connaît les marches, le tapis rouge, les projections officielles, mais le festival c'est aussi un lieu incontournable pour le business.
Mais oui, les films ça se finance, ça se vend, ça s'achète, c'est le marché du film. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Cannes et vous nous faites découvrir ce matin ce marché parallèle.
Oui, vous connaissez donc le Palais des Festivals, hein, où se déroulent les cérémonies et les projections. Là, je vous emmène au sous-sol, au niveau moins 1, où se vendent les films du monde entier. Alors, ce sont des stands montés juste pour la durée du festival, avec parfois des bureaux fermés pour certains, pour la négociation. Il y a des vendeurs de 114 pays différents. Il y a Thaïlande, Croatie, un énorme stand en forme de pagode pour la Chine. Alors, avant, dans les premières années du festival, les films se vendaient de manière informelle, autour d'un verre, dans des bars d'hôtel, sur des terrasses. On montait des petites cabanes en bois et en toile pour projeter les films. Désormais, ce grand marché est organisé avec Netflix et les autres plateformes qui sont en train de changer les règles du jeu. Vous savez, oui. Les plateformes, ce sont ces sites internet sur lesquels on peut visionner des films et des séries. Alors, vous allez comprendre pourquoi elles changent le marché. Netflix et les autres n'achètent pas les films pour les sortir au cinéma, comme les vendeurs classiques, mais seulement pour garnir leur catalogue sur Internet. On va au stand français de Pyramide Films. Vous avez sûrement déjà vu ce nom au générique d'un film, un Pyramide. Alors son patron, Éric Lagesse, qui vend des films dans le monde entier, a désormais Netflix en tête en permanence lors des transactions.
C'est-à-dire que moi, je mets un film sur le marché en tant que vendeur international, je peux avoir Netflix tout à coup qui me dit « Waouh, on adore le film, on veut l'acheter ». Mais si on l'achète pour le monde entier et le film ne sort nulle part. Moi, je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai fait, je ne suis pas contre Netflix. Hein. Moi, je ne suis pas du tout une Jeanne d'Arc qui court après Netflix. Moi, je l'ai déjà fait quand, par exemple, j'ai senti que le film en question n'était pas un film qui allait se vendre à beaucoup de territoires. C'était un documentaire qui s'appelle « L'humour à mort » sur les attentats de Charlie Hebdo. Donc évidemment, on ne refuse pas une offre intéressante de Netflix qui vous prend les droits mondes, mais avec une simple exploitation sur une plateforme. C'est une vraie réflexion qu'on peut avoir, nous, en fait, en tant que vendeurs internationaux. voilà, je vends mon film à Netflix pour une somme X, souvent un montant plutôt confortable, mais là, ça veut dire que le film qui est fait pour le cinéma n'aura donc pas une critique dans le New York Times, une critique dans le Guardian, et donc n'aura peut-être pas la notoriété qu'il aurait eu si son film était sorti en salle. Ça a un peu secoué le marché, quoi.
Voilà, parce que l'enjeu, c'est donc que le film connaisse le succès qu'il mérite via les critiques, le bouche à oreille. Or, les vendeurs le savent, s'il cède aux sirènes de Netflix, c'est l'expression qui revient souvent ici à Cannes, les sirènes de Netflix, eh bien, le film peut se retrouver, vous savez, noyé dans la plateforme et l'algorithme ne le fera jamais apparaître dans votre catalogue. Vous ne verrez pas ce film.
Et Netflix propose des sommes vraiment colossales.
Alors, je vais vous donner un exemple que m'a donné un autre distributeur. Un film d'auteur français dont les droits peuvent être vendus autour de 100 000 euros environ. Eh bien, Netflix en propose 500 000. Mais c'est de l'argent qui ne sera pas versé net, mais mensualisé. Donc, ça devient peut-être un peu moins intéressant. Et puis, les plateformes vont imposer aux distributeurs du travail supplémentaire qui peut lui coûter cher. Par exemple, ajouter des sous-titres en 10 langues. Alors, on parle de Netflix, mais il y a aussi, bien sûr, Amazon, Disney qui se lance et un tas d'autres petites plateformes beaucoup moins puissantes financièrement. Un exemple, Mubi, M-U-B-I, pour les films d'auteur.
Est-ce qu'on sait combien d'acheteurs de Netflix et des plateformes viennent à Cannes ?
Alors oui, Pierre, on le sait précisément, puisqu'il faut être accrédité. Il y a 25 personnes de chez Netflix ici cette année, une centaine de représentants de toutes les plateformes confondues sur 12 000 participants. Mais difficile, très difficile de les approcher, nous explique le directeur du marché du film, Jérôme Paillard.
Ils sont assez discrets, comme ils sont extrêmement sollicités, contrairement à d'autres distributeurs qui se laissent plus facilement contacter. Eux vraiment choisissent avec qui ils vont parler. Eux ont un agenda très précis des gens qu'ils vont rencontrer, des films qu'ils vont voir.
Et puis Netflix s'intéresse aussi au nouveau marché du cinéma. La plateforme américaine a acheté pour la première fois, il y a quelques mois, un film africain, un film du Nigeria qui a dû être retravaillé pour s'adapter aux standards internationaux parce que, par exemple, la bande-annonce faisait 5 ou 6 minutes, beaucoup trop long pour un public américain ou européen.
Eh bien, merci beaucoup Virginie Selmen pour cette enquête très approfondie sur cette face cachée de Cannes qu'on connaît vraiment beaucoup moins, tandis que Mathieu Charrier, tout à l'heure à 8h35, sera là pour nous parler des films. Merci Virginie.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé.
Bonjour Pierre.
Aujourd'hui, vous réinventez le sèche-linge.
Oh, c'est pas moi, ce sont des ingénieurs qui vous ont inventé un sèche-linge formidable, une nouvelle génération qui est capable, tenez-vous bien, de tout sécher en 15 minutes chrono.
Ah oui, ah oui. 15 minutes.
Le matin.
Je demande à voir.
Je crois pas.
Bon réveil avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1, il est 7h23. Il est 7h24, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, bien vous le savez, c'est avec Anissé Mbida.
Anissé qui nous parle de notre quotidien pour sécher son linge. On le met soit sur un étendoir, soit on le passe au sèche-linge. Dans tous les cas, ça prend des heures et des heures. Anissé, vous avez trouvé un nouveau concept de machine qui sèche en moins d'un quart d'heure.
Oui, une nouvelle génération de sèche-linge qui est un petit peu magique puisqu'elle sèche très vite, vous l'avez dit, mais en plus à température ambiante. Et là, je vois Céline qui fait une drôle de tête. Comment je c'est possible?
Elle faisait la même tête lors des smartphones quand on disait qu'on allait avoir Internet sur nos téléphones.
Moi, je vais un clapet, moi.
Et ben, c'est possible tout simplement avec une astuce, une petite astuce, en faisant le vide dans le tambour, ce qui permet à l'eau de s'évaporer à 25-30 degrés au lieu des 100 degrés habituels. Alors là, pour comprendre, il faut se souvenir de ces cours de physique parce qu'en fait, la température d'ébullition dépend de la pression. Plus la pression est basse, moins il y a besoin de chauffer l'eau pour qu'elle s'évapore.
Et c'est ça qui permet de sécher plus rapidement.
Oui, parce qu'une des raisons pour laquelle le séchage prend autant de temps aujourd'hui, bah, c'est qu'on chauffe le linge à seulement 60-80 degrés maximum pour éviter justement qu'il s'abîme. Mais en faisant le vide, puis on obtiendra le même effet que si on avait monté la température à 100 degrés. Donc ça va sécher beaucoup plus vite. On devrait rarement dépasser le quart d'heure selon les fabricants. Et pourtant, le linge restera totalement tiède. Hein. Il ne va pas être brûlant le linge. Hein. Et un autre intérêt, bah, c'est que ça chauffe. Comme on chauffe beaucoup moins, bah, on consommera aussi beaucoup moins d'électricité et vous pourrez même laver et sécher votre beau petit chandail fragile.
Vous avez dit faire le vide, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire baisser la pression. On aspire l'air, comme ça on diminue la pression qui est à l'intérieur du tambour. Hein, on fait, vous savez, comme les machines qui mettent sous vide. Mm-hmm. Ça diminue la pression à l'intérieur du tambour et comme on a diminué la pression, il n'y a pas besoin de monter à 100 degrés pour que l'eau s'évapore. Il y a besoin de mettre 20, 30, 40 degrés.
Et c'est bientôt disponible?
Alors ça devrait arriver d'ici la fin de l'année et le premier, ce sera sûrement celui d'une start-up qui s'appelle Morus. plus. Elle propose un petit mini sèche-linge qu'on pose sur la table, d'1,5 kg de linge. Mais tous les grands fabricants devraient bien sûr s'y mettre juste après. Et ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends maintenant, c'est la machine qui lave et qui sèche en moins d'un quart d'heure, ouais. Comme ça le matin. Ah bah. Justement, vous savez, quand on cherche le vêtement qu'on veut mais qu'il est au sale.
Et qu'on en a qu'un comme vous.
Et qu'on en a qu'un, ouais, exactement. Et bien on peut le mettre dans la machine et hop, brout, un quart d'heure après, c'est lavé, séché. Et maintenant, j'aimerais bien que ça plie aussi le linge.
Merci Anissa. On va faire une cagnotte pour vous acheter des vêtements.
On repasse aussi.
Vous revenez demain quand même. Vous prêtez un t-shirt pour nous.
C'était l'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, c'est le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, Pierre, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Et il fait bon, Laurent.
Il fait bon, il fera bon. Mais ce matin, quand même, beaucoup d'entre nous font la tête. Je pense à tous ceux qui habitent Clermont, Mulhouse, Strasbourg, Caen, Nancy, Bourges, même le bassin parisien. 3 à 5 degrés, oui, c'est frisqué. 7 à Lyon, 8 à Lille, 9 à Paris, 10 à Nantes, 11 à Toulouse, 12 à Bordeaux. Ce sont les températures fraîches, très fraîches, pour ne pas dire froides. Et dans la journée, cependant, nous allons quand même avoir un thermomètre qui va bien remonter, qui va reprendre un peu de vigueur, et ce sera assez sympathique sur la plupart des villes de France. Je vous l'ai donné tout à l'heure, je rappelle simplement que la fourchette se situe entre 17 et 23, 17 à Caen, et puis 18 à Paris, 19 à Bourges et la Roche-sur-Yon, 20 à Marseille et 23 degrés à Toulouse, nous irons jusqu'à 25 à Cahors. En ce qui concerne la couleur du ciel, ça commence un petit peu à changer, mais enfin, rien de bien méchant. Les premiers nuages vont arriver sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée, il y a toujours du vent d'Est dans ces régions. Ces nuages vont se promener ensuite vers la basse Normandie, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et ils seront, même le Béarn, et ils seront là sous la forme d'un ciel voilé, mais qui va devenir quand même assez lumineux au fil des heures. Voilà, près des frontières du nord et du nord-est, il pourrait y avoir quelques passages nuageux également, mais voyez, tout ceci n'est absolument rien à côté de ce qui nous attend. Nous allons donc vivre une journée de demain qui commencera à marquer le changement, j'allais même dire la bascule, parce que franchement c'est une bascule. Demain ça sera encore à peine supportable, et puis à partir de vendredi, samedi, j'en reparlerai tout à l'heure, à partir de samedi, pardon, de dimanche, et bien là ce sera franchement désagréable, surtout dans le sud.
Merci Laurent Cabrol. À suivre à 7h40, Jean-Michel Apathy, Andrea Cotarac, un jeune élu de la France Insoumise, quitte son parti pour voter Rassemblement National aux Européennes. Opportunisme ou véritable logique politique? 7h43, Axel de Tarlé. San Francisco interdit à la police d'utiliser les logiciels de reconnaissance faciale. Et puis 7h45, un rapport très attendu cet après-midi sur le sujet explosif du glyphosate. Je reçois le co-rapporteur du texte, le député En Marche et mathématicien Cédric Villani.
Nous sommes le jeudi 16 mai, il est 7h30.
7h-9h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Et à 7h30, le journal, Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Après 48 heures de garde à vue, Frédéric Péchier va être fixé ce matin. L'anesthésiste de Besançon pourrait de nouveau être mis en examen pour empoisonnement. Il est déjà poursuivi pour 7 cas, dont 2 mortels. L'affaire avait éclaté il y a 2 ans. Combien de cas seront retenus cette fois-ci? Le dossier pourrait s'alourdir. On a en tout cas appris que parmi les victimes présumées du médecin figurait un petit garçon de 4 ans qui, par chance, s'en est sorti. Pierre de Cossette.
Au départ, c'est une intervention chirurgicale tout à fait banale, les amygdales. Mais ce jour-là, en 2016, rien ne se passe comme prévu. Le cœur du petit garçon s'arrête de battre un quart d'heure après son entrée au bloc. Le docteur Péchier arrive à la rescousse et le ranime une fois, puis une seconde, quelques minutes plus tard. Le cœur du garçonnet repart. Aujourd'hui, Teddy se porte bien, mais ses parents, toujours très marqués, ne peuvent s'empêcher de voir dans ce qu'il s'est passé le scénario de l'anesthésiste qui surgit tel le héros, hypothèse la plus fréquemment soulevée pour expliquer le possible comportement criminel du médecin. Parmi la petite quarantaine de cas retenus par la PJ de Besançon, après 2 ans d'enquête, figure donc l'histoire terrible de ce petit garçon qui n'avait pas de raison, selon les expertises, de connaître une telle alerte. Des expertises trop incomplètes néanmoins, pour savoir s'il a pu faire une réaction à un empoisonnement. C'est donc le juge d'instruction qui décidera si ce cas précis peut être imputé à Frédéric Péchier, dont le dossier risque sérieusement de s'alourdir d'ici ce soir.
Pierre de Cossette, 5 ans après la fermeture de l'usine
usine Goodyear d'Amiens Nord. Les salariés vont connaître aujourd'hui la décision du tribunal des prud'hommes. Plus de 800 d'entre eux contestent leur licenciement en raison des résultats bénéficiaires du groupe américain. La décision devrait être connue à 14h. Le couple franco-allemand est gratiné par la chancelière Angela Merkel. Dans une interview, elle met en lumière les différences de mentalité entre elle et le président français. Elle reconnaît avoir des confrontations avec lui. Emmanuel Macron lui a répondu hier depuis l'Élysée qu'il fallait accepter des désaccords momentanés. Il a dit croire à la confrontation féconde pour bâtir un compromis au niveau européen.
Dans l'actualité également, le chômage. Et on vient d'avoir tout juste le taux de chômage au premier trimestre. Il est en recul de 0,1 point à 8,7%.
Et nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h avec Emmanuel Duteil. L'occasion en tout cas de parler de l'initiative du département du Bas-Rhin qui a décidé de court-circuiter Pôle emploi pour trouver du travail à ses bénéficiaires du RSA. Le conseil départemental a lancé une plateforme qui met en relation allocataires et entreprises. C'est concret et ça va même au-delà des frontières. Arthur Mbaché.
Vous pouvez zoomer, dézoomer sur une carte de Strasbourg, ses alentours, même de l'autre côté du Rhin apparaissent des offres d'emploi, pictogrammes bleu, jaune, vert, selon que ça correspond un peu ou beaucoup à votre profil. Franck est allocataire du RSA.
Vous marquez où vous habitez déjà et après sur la carte, il y a marqué les offres qu'il y a autour de chez vous. Après, vous cliquez dessus et vous postulez et puis après vous attendez.
Lui aussi a créé un profil sur le site. Boris Fels, patron allemand d'une boîte d'abri de piscine à 10 minutes de la frontière, il cherche des ébénistes, des charpentiers.
On peut cocher aussi alsacien, ce que je trouve très très bien parce que souvent les Français ont peur de venir en Allemagne parce qu'ils ne parlent pas à 100% allemand, mais il suffit de maîtriser la langue alsacienne pour se faire comprendre.
À la gestion qu'il appelle industrielle des chômeurs version Pôle emploi, le président du département, Frédéric Biry, oppose le sur-mesure, le coût humain.
Pôle emploi fait un excellent travail, mais il gère le côté professionnel. La force de notre action, c'est de compléter cela avec une équipe de travailleurs sociaux qui sont là pour lever les autres freins.
24 000 personnes touchent le RSA aujourd'hui dans le Bas-Rhin. Le département vise 4 000 mises à l'emploi grâce à cette plateforme Job Connection d'ici à la fin de l'année. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
L'école obligatoire dès l'âge de 3 ans au lieu de 6 et ce dès la rentrée prochaine. Le Sénat a donné son feu vert cette nuit à l'unanimité. C'était un engagement pris par Emmanuel Macron en mars 2018. Pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est l'article le plus important de la loi. L'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans qui ont décroché scolairement a également été votée. À Mexico, les autorités annoncent la fermeture des écoles aujourd'hui et la suspension des gros chantiers de la ville en cause. Un énorme nuage de pollution qui enveloppe la mégapole depuis 5 jours en raison d'incendies.
Le premier film français en compétition hier soir à Cannes a fait sensation.
Les Misérables de Lajli, son premier long métrage, un film 24 ans après la haine de Mathieu Kassovitz consacré aux banlieues. Mathieu Charrier.
En 24 ans, on est passé de la haine au désespoir. Voilà comment on pourrait résumer ce film, qui nous plonge dans le quotidien de trois policiers de la BAC de Montfermeil. Le beauf, raciste, le banlieusard, devenu flic, et le nouveau, qui assiste aux interventions zélées de ses collègues, jusqu'à une bavure filmée par le drone d'un gamin du quartier. Mais ça, c'est la trame de fond. Car ce qui est intéressant, c'est ce que le film raconte, c'est-à-dire le quotidien de la banlieue d'aujourd'hui, celle de la misère, des gamins perdus que même les grands frères ou les caïds n'arrivent plus à raisonner, explique Ladji, le réalisateur.
Et moi, ça va faire 15 ans que je filme mon quartier. Tout est vrai dans le scénario. On est à plus de 40% de chômage dans ces quartiers. Les écoles publiques, elles sont totalement pourries. Donc c'est pour ça, moi, j'ai axé le film sur l'enfance dans ces quartiers difficiles. Qu'est-ce que nos gamins vont devenir ?
Mais ils se rebellent pas contre les frères musulmans. C'est les seuls qu'ils épargnent.
Justement, quand les gamins ont un problème, les premières personnes qu'ils vont voir, c'est ni leurs parents, ni les grands frères, ni quoi que ce soit. Ils vont voir les frères mus parce que c'est les gens les plus justes dans le quartier et c'est les seuls qu'on épargne à la fin du film.
Et Les Misérables n'est pas un film anti-flic ou manichéen. Il n'y a ni gentil ni méchant. Une phrase de Victor Hugo résume tout. Elle apparaît sur l'écran à la toute fin. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Mathieu Charrier, que l'on retrouvera à 8h35 pour le journal de Cannes, Pierre.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann.
Pierre de Villeneau sur Europe 1.
Dans un instant, le duo Apathy-Tarlé, j'arrive jamais, c'est Apathy-Tarlé.
C'est dur. Hein.
Allez, très Jean-Michel Apathy, la politique ce matin.
Eh bien, il s'en passe des choses en politique. On a appris qu'un élu de la France Insoumise et le parti de Jean-Luc Mélenchon allait voter pour le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen. On se dit, ils sont tous dingues et en fait, pas du tout. C'est assez logique, cohérent et raisonné.
22 v'là les flics, Axel.
Oui, San Francisco dit non, enfin la police de San Francisco dit non à la reconnaissance faciale qui nous ferait entrer, dit-on, dans un monde orwellien, 1984, la surveillance de masse.
Eh ben ça promet. À Patty Tarly dans un instant sur Aura.
Bon réveil à tous, il est 7h35. Il est 7h38, Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et voilà qu'un élu de la France insoumise, il s'appelle Andréa Cotarac, conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes, a créé la surprise hier. Il a quitté son parti, il a appelé à voter pour la liste du Rassemblement National. Jean-Michel, est-ce que c'est de l'opportunisme ou est-ce qu'il faut y voir une logique politique ?
Il y a une logique politique, bien sûr. Alors, on dit « Ah ben, ces partis sont très différents », ce qui est vrai. La France insoumise et le Rassemblement National n'ont pas la même histoire, n'ont pas les mêmes valeurs. La question de l'immigration les sépare, c'est une évidence, mais ils ont aussi des points communs. Et ce sont ces points communs qu'il faut explorer ce matin pour comprendre comment un ami de Jean-Luc Mélenchon va voter pour un ami de Marine Le Pen. Depuis 10 ans, Jean-Luc Mélenchon a nationalisé son discours économique et social. C'est une réflexion, une évolution personnelle sincère de Jean-Luc Mélenchon qui l'amène aujourd'hui à dire que l'Union européenne, c'est le cheval de Troie du libéralisme. Jean-Luc Mélenchon, au fil du temps, est devenu souverainiste comme l'est Marine Le Pen. Le 21 mars 2017, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est l'invité d'une émission de TF1 sur laquelle il présente son programme présidentiel. Et à la fin de sa présentation, il en synthétise l'esprit avec cette phrase que je vais citer. C'est Jean-Luc Mélenchon qui parle. « Mon programme est de rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. » Rendre la France aux Français, c'est une expression estampillée Jean-Marie Le Pen. Et c'est consciemment, librement ce soir-là, que Jean-Luc Mélenchon l'emploie pour authentifier l'évolution nationaliste de son discours économique et social. Et de son côté, Marine Le Pen a fait du chemin aussi. Elle prend la tête du Front National, ça s'appelait comme ça à l'époque, en 2011, et elle a débarrassé au fil du temps, sous l'influence de Florian Philippot, le discours du Front National de toute adhésion au libéralisme, et elle aussi fait aujourd'hui de l'Union européenne le cheval de Troie des politiques libérales, et c'est pour ça, patati patata, qu'elle combat Emmanuel Macron. Donc il y a une convergence, et Andréa Cotarac, que la France insoumise accuse de traître aujourd'hui, ce qui l'authentifie, c'est cette ressemblance. On peut voter pour le Front National, pour le Rassemblement National, quand on est membre de la France insoumise. Le calcul tactique de Cotarac n'est pas idiot. Il dit le plus important, c'est de faire échec à la politique d'Emmanuel Macron. Et il ne sert à rien, dit-il, lui, c'est lui qui le dit, ben nous, hein, de voter pour la France insoumise parce qu'elle est dans les choux, la France insoumise. Donc pour éviter que la liste de la République en marche soit en tête, eh bien il vaut mieux voter tout de suite pour la liste de Jordan Bardella. Et ce soir, il devrait être en meeting avec Marine Le Pen. Alors Jean-Luc Mélenchon crie au complot, il crie, je le cite, au coup monté. C'est tellement plus facile de penser que c'est toujours la faute des autres quand un incident vous arrive. Après l'élection européenne, sans doute Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme intelligent, aura matière à réflexion sur les raisons pour lesquelles un de ses amis vote pour un ami de Marine Le Pen.
Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé, ça y est, c'est fini. Les policiers de San Francisco ne pourront plus utiliser les logiciels de reconnaissance faciale.
Oui, alors c'est très intéressant parce que ça se passe à San Francisco, la capitale de la Silicon Valley, donc à l'avant-garde des nouvelles technologies numériques que nous aurons demain. Eh bien, San Francisco dit stop. Stop à la reconnaissance faciale. Pourquoi ? Eh bien, je cite le patron de Microsoft qui explique qu'avec la reconnaissance faciale, on risque de vivre demain dans une page du roman de George Orwell 1984, c'est-à-dire la surveillance de masse. Alors pourquoi ? Comment ça se passe en pratique, la reconnaissance faciale ? Eh bien, chaque citoyen est identifié via une caméra. Jusque-là, très bien. Puis, l'intelligence faciale artificielle est capable de prédire le risque de désordre. Par exemple, est-ce que cette personne est en train de courir ? Est-ce qu'elle est agitée ? Est-ce qu'elle se met à hurler ? Mais pour bien prédire, il faut contextualiser cette attitude. Où est-on ? Est-ce qu'on est dans une manifestation ? Est-ce qu'on est dans un quartier sensible ? Est-ce qu'on est proche d'un lieu de culte jugé potentiellement dangereux ? Mais allons plus loin si on va par là. On peut même identifier les origines, l'ethnie jugée potentiellement dangereuse. Et ça n'est pas de la science-fiction. La Chine utilise la reconnaissance faciale pour identifier les Chinois d'origine ouïghour, donc la minorité musulmane du pays. Donc on voit bien les dérives de cette technologie. Vous êtes jugé suspect, non pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de qui vous êtes. En clair, vous êtes prédestiné à être suspect. Bienvenue dans ce monde orwellien de la reconnaissance faciale. Eh bien, c'est ce monde auquel San Francisco dit stop. Tant mieux, l'Amérique se réveille. Et on le voit bien d'ailleurs, d'une façon générale, on assiste en ce moment à une vaste prise de conscience du danger que représentent ces nouvelles technologies Internet, de ces géants du web devenus trop puissants et qu'il faudrait démanteler pour préserver nos libertés.
Merci Axel de Tarlé.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Le rapport sur le glyphosate est très attendu. Le sujet est explosif. Les parlementaires rendent leur enquête cet après-midi. Est-il cancérogène ? Quelles sont les alternatives pour les agriculteurs ? Je reçois le député En Marche Cédric Villani, co-rapporteur de ce texte. À tout de suite.
Bon réveil sur Europe 1. Il est 7h43. chiffres, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre Devineau.
Le chômage recule légèrement au premier trimestre, moins 0,1 point à 8,7%. On y revient dans le journal de 8 heures. L'anesthésiste de Besançon pourrait de nouveau être mis en examen ce matin après 48 heures de garde à vue. Il a été interrogé pour des dizaines de cas d'empoisonnement de patients. Quatrième jour du procès Balkany, hier le maire de Levallois s'est retranché derrière un héritage familial pour expliquer son train de vie. Aujourd'hui, le parquet national financier va présenter ses réquisitions concernant le délit de fraude fiscale.
Europe 1. Pierre Devineau, vous recevez ce matin le mathématicien Cédric Villani, député La République En Marche de l'Essonne.
Bonjour Cédric Villani.
Bonjour.
Vous intervenez ce matin à plusieurs titres. D'abord parce que vous êtes le premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, que vous avez été missionné par le Sénat et l'Assemblée pour mener l'enquête sur l'évaluation du glyphosate en tant que cancérigène. Ce rapport que vous présentez aujourd'hui au Sénat, quelques jours après la sortie remarquée du sénateur UDI Pierre Medevielle, co-rapporteur de ce texte, disant que le glyphosate serait moins cancérogène que la viande rouge ou la charcuterie. Vous avez eu beau parler de faute, mais est-ce que le mal est fait ?
Ce qui est sûr, c'est que la sortie du sénateur Pierre Medevielle n'a pas apporté de clarté et de sérénité au débat. C'est une sortie qui a été faite en brisant un embargo, puisque les conclusions du rapport seront dévoilées seulement cet après-midi au Sénat en conférence de presse. Et il a entretenu une confusion considérable, puisque ce rapport ne porte pas sur le glyphosate, ou du moins n'apporte aucune nouvelle conclusion sur le caractère cancérigène ou pas du glyphosate, parce que c'est juste pas son sujet. Le sujet de ce rapport, ce sont les agences d'évaluation, les agences comme l'ANSES en France ou l'EFSA au niveau européen, celles qui justement sont chargées de donner un avis sur la toxicité de tel ou tel produit. Et il s'agit d'expliquer pourquoi la tâche de ces agences est si difficile, pourquoi l'évaluation est complexe, pourquoi des agences différentes donnent des résultats différents et formuler des recommandations pour que le travail soit plus efficace et mieux compris des citoyens et des politiques. Et c'est de cela qu'il sera question cet après-midi.
Quel genre de recommandations ? Parce que vous avez dit le mal est fait, vous avez dit la situation a été envenimée à cause du sénateur Medevielle. Il est peut-être aujourd'hui temps, Cédric Villani, de nous dire ce qu'il y a vraiment dans ce rapport. On ne peut pas attendre cet après-midi.
Comme une fuite n'arrive jamais seule, le rapport a aussi commencé à circuler ici et là dans la presse. Et sans dévoiler le cœur du rapport, d'abord,
je voudrais insister.
Alors, je vais vous dire quelques mots. Et je vais insister sur le fait que ce rapport, il a été préparé par 4 co-rapporteurs. Medevielle est l'un d'entre eux, mais il y a aussi le sénateur communiste Ouzoulias. Vous voyez, dans ce genre de co-rapporteurs, que dans ce genre de casting, si je puis dire, que précisément, c'était l'objet du rapport que dépassionnait le débat, avec d'un côté un sénateur Medevielle qui ne croit pas à la toxicité du glyphosate, et de l'autre côté un autre Ouzoulias qui, lui, en est convaincu.
Et vous ?
Et moi, je pense que le sujet du glyphosate doit être considéré comme derrière nous.
Mais c'est pas possible.
Il y a un plan de sortie qui a déjà été fait par le gouvernement.
Humainement, vous dites politiquement il est derrière nous, mais humainement, il n'est pas du tout derrière nous. Les agriculteurs s'interrogent, la population s'interroge. On se demande quel substitut on peut prendre.
Et je vais vous dire, je pense que la question du substitut n'est pas la question qui nous attend. La question qui nous attend dans la décennie qui vient, c'est comment se passer de phytosanitaire. Ça, c'est ma conviction personnelle, nourrie par des échanges avec l'INRA, avec le CNRS. La conclusion que je me suis forgée en écoutant les experts, c'est que l'enjeu qui nous attend, c'est sortir des phytosanitaires, sortir des engrais de synthèse, et ça veut dire tout, les phytosanitaires.
C'est-à-dire une France agricole sans pesticides, sans rien du tout.
Une France agricole avec le moins de pesticides possible.
Ah non,
il y a un enjeu non
vous
seulement
qui êtes mathématicien,
pour
c'est quoi le ratio dans le moins de pesticides possible ?
Le moins, ça veut dire absolument le moins possible. Et c'est ici qu'il faut laisser la parole aux chercheurs, aux agronomes. Ce que nous disent l'INRA, ce que nous dit le CNRS, il y a des expériences en cours dans lesquelles on fait des cultures dans lesquelles il n'y a aucun ajout de pesticides.
Si vous arrivez à cette conclusion, Cédric Villani, c'est que vous nous dites que le glyphosate est dangereux.
Je ne vous dis pas cela parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la question. Ce qui est sûr, c'est que les phytosanitaires, dans leur ensemble, sont des produits qui sont faits pour tuer. C'est leur fonction. Ils sont faits pour organiser de la destruction de certains organismes.
Donc ils sont dangereux.
Et évidemment, il y a toujours moins on en utilise et mieux on se porte également pour les questions de biodiversité, pour toutes sortes de questions écologiques. Et le grand enjeu qui nous attend, c'est ça, j'en suis persuadé à titre personnel. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du rapport. Le rapport aujourd'hui, qui sera présenté aussi par deux députés, les députés Anne Genette et Philippe Bolo, hein, il y a quatre rapporteurs en tout, portera sur l'amélioration des agences d'évaluation. Et je suis obligé de m'en tenir à cette ligne parce qu'il y a eu tellement de confusion autour de ce rapport. Ça m'a ruiné ma journée de lundi qui a été consacrée entièrement à faire des démentis et à des remises au point. Et c'est de ça qu'il sera question.
C'est bien la raison pour laquelle vous êtes là ce matin. C'est exactement. Parce qu'on n'est plus lundi, on est jeudi. On a dépassionné le débat et aujourd'hui, il faut avancer. L'interdiction d'ici 3 ans de ce glyphosate, c'est pourquoi faire ? C'est le principe de précaution. Quand est-ce qu'on saura vraiment la nature, cancérogène ou pas, du glyphosate ?
Écoutez, ces études, comme on l'a dit, comme je le disais, sont extraordinairement complexes et vous avez, avec des méthodologies différentes et des questions différentes, des agences internationales qui sont arrivées à des recommandations et des positionnements différents. On voit bien ici qu'il n'y a pas d'avis tranché des uns ou des autres. Ma position personnelle, c'est la sortie des phytosanitaires dans leur ensemble.
Le moins possible.
Je pense que c'est un enjeu important. Et aujourd'hui, le sujet qui est abordé à l'OPEXT, c'est comment améliorer la qualité d'évaluation, la confiance des citoyens dans les agences d'évaluation et un travail de pédagogie pour expliquer des choses telles que la différence entre risque et danger, la façon dont une société doit apprendre à faire confiance à ces institutions et dont on peut s'assurer.
Et à vivre avec le moins de pesticides, comme vous le dites. On verra ce que vous répond Didier Guillaume, qui est le ministre de l'Agriculture. Il sera l'invité tout à l'heure d'Europe 1 à 8h15. Cédric Villani, vous êtes partout. Vous êtes en particulier à Paris. La municipale, c'est l'an prochain. Votre cheval de bataille, c'est le Grand Paris. Par exemple, inclure les communes limitrophes pour en faire des arrondissements. Vous insistez sur les métiers de demain. On va en parler dans quelques instants. Mais voilà, le grand favori à Paris, c'est Benjamin Griveaux. Est-ce que vous pouvez le battre ?
Alors, vous parlez d'un match...
Pour l'investiture LREM.
Vous parlez d'un match qui, selon vous, est déjà fait. Vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. J'ai vu passer des sondages dans lesquels nous étions l'un et l'autre au coude à coude. J'ai vu passer des actions de l'un et de l'autre. Et ici...
Il est devant vous dans les sondages ?
Il est devant, effectivement, avec
ça vous chagrine,
à l'intérieur d'une marge d'erreur.
Ça ne vous fait rien ?
Moi, je suis dans une démarche où je déroule un projet, comme vous l'avez dit. Je parle de Paris en grand, je parle du projet de l'écologie à Paris pour demain, de Paris et dans les communes limitrophes. Et l'enjeu de construction du Grand Paris et le fait d'arriver à un Paris où on aura une gestion extrêmement rigoureuse et extrêmement ouverte, où on s'occupera d'employer la bonne dose de technologie et la bonne dose de planification pour éviter que Paris soit coincé dans les embouteillages, pour éviter que les travaux ne viennent intempestivement bloquer.
Et ici vous et voulez là. Inclure dans Paris les métiers d'avenir. Les métiers dont on parle aujourd'hui, puisque Europe 1 sera à Station F tout à l'heure à 17h, ce sont les métiers de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un nouveau gisement pour vous ?
C'est un gisement considérable et une donnée, la façon que nous aurons de donner aux générations qui viennent à la fois des outils pour s'emparer de la société, pour la transformer et pour travailler ensemble. Et de ce point de vue-là, les enjeux actuels de l'intelligence artificielle posent le débat par rapport au numérique de façon très différente de ce qu'il y avait quand vous et moi, nous étions intéressés, je veux le croire, par l'informatique et occupés à nous demander ce que c'était que cette nouvelle bête qui se développait. À cette époque-là, c'était un débat de passionnés et d'experts où on apprenait à programmer
aujourd'hui,
des
ça
langages
touche tout
comme
le monde.
Le Basic et le Pascal. Aujourd'hui, ça touche tout le monde, tous les métiers, y compris des gens qui ne souhaitent pas programmer. Et c'est là qu'il y a un grand enjeu, apprendre à travers l'intelligence artificielle pour nos jeunes à développer des projets.
Avec les dangers que ça implique, parce que c'est à double tranchant, l'intelligence artificielle.
Et on l'a entendu il y a quelques instants dans la chronique de Monsieur Tarlet, absolument. C'est à double tranchant, c'est un projet, ce sont des projets de société dans lesquels le maître en jeu n'est plus la question de la technique, mais bien celui de la confiance. On parlait tout à l'heure sur la question au sujet des agences d'évaluation des produits phytosanitaires et autres, de la confiance, mais c'est un maître mot dans tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et aussi pour le devoir que nous avons donné à tous nos jeunes des chances dans une optique aussi d'équité sociale pour l'avenir, donner des billes pour comprendre et transformer la société de demain.
Merci beaucoup Cédric Villani d'avoir été avec nous ce matin.
Et les métiers d'avenir, l'intelligence artificielle, on en parle en direct sur Europe 1 tout à l'heure. Entre 17h et 19h, Mathieu Béliard sera à la station F pour une émission spéciale et vous pourrez intervenir en appelant au 3921, c'est 50 centimes la minute.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, tension dans le couple franco-allemand. Angela Merkel reconnaît des confrontations et des différences de mentalité avec Emmanuel Macron. Nous sommes à Berlin dans le journal de 8h. Et puis dans une minute, le retour d'une légende du rock en très très grande forme. C'est la petite histoire du jour de Jean-Philippe Ballas.
Excellente matinée sur Europe 1. Il est 7h54. Il est 7h57, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Pierre.
Vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas, ce matin, le retour d'une légende.
Mais dites-moi, qui est donc cet homme longiligne, affûté, t-shirt blanc, jogging noir? Cet homme qui danse, facile, devant le grand miroir de cette salle de répétition. Ce déhanché caractéristique, ses petits pas frénétiques. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est bien lui. Alléluia les amis, Mick Jagger est de retour comme un diable ressorti de sa boîte. Une petite vidéo, chorégraphie, postée innocemment comme ça hier soir et qu'on pourrait sous-titrer ainsi. Bonjour, je m'appelle Mick, j'ai 75 ans, je viens d'être opéré du cœur, je n'ai pas pris que de la camomille ou du quinoa tout au long de ma carrière, mais je bouge encore comme jamais tu ne bougeras mon petit bonhomme. Voilà, tout ça pour vous dire que cette vidéo est un peu comme un bulletin de santé qui, je dois le dire, nous fait du bien à tous. L'espoir de voir les Stones remonter bientôt sur scène après cette opération du cœur, cœur de pierre, pierre qui roule. Tu sais quoi, Mick ?
Ah non.
Nous, on voudrait que jamais, jamais tu t'arrêtes.
Ça déménage, le bassiste et rocker Jean-Philippe Ballas.
À suivre le journal de David Doucan. Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, Véranda et Abri de Piscine. La météo avec Laurent Cabrol.
Le crooner, Laurent Cabrol.
Oui, mais je vais vous épargner. Alors, en ce qui concerne
la
journée d'aujourd'hui, vous savez, il fera beau. Bon, après quelques nuances que j'ai installées sur la carte de France depuis ce matin, il fera beau, il fera bon. Les températures entre 17 et 23 degrés. Demain, vendredi, malheureusement, ce ne sera pas du tout le même cas. Sur toute la moitié sud, il va pleuvoir, y compris sur le littoral méditerranéen. Et la pluie pourrait atteindre même la Loire. Nuageux sur la Manche, sur l'Est, sur la région parisienne, en principe sans intempéries. Et les températures demain entre 15 et 18 degrés, donc ils vont baisser. Elles vont baisser. Samedi, des averses, des giboulées, des orages en alternance, donc ce n'est pas folichon du tout. Dimanche, le même type de temps, pluie, orage. Mais quand même, il ne faut pas trop exagérer cette litanie, il y aura des éclaircies quand même dimanche et samedi, hein, nous aurons quelques rayons de soleil, donc ce n'est pas dramatique, d'autant que durant toute cette période, les températures seront positives, largement positives et surtout, elles seront presque douces.
Merci Laurent Cabrol.
Et merci de nous avoir choisis en ce jeudi matin. Très belle matinée, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
8h, le journal, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Cette citation attribuée à Voltaire résonne sans doute aux oreilles d'Emmanuel Macron, car Angela Merkel a admis vivre des confrontation avec le président français. Nous serons à Berlin dès le début de ce journal pour comprendre ce qui se trame. Les chiffres du chômage en France. L'INSEE annonce une très légère baisse de 0,1 point au premier trimestre 2019. Le nombre de demandeurs d'emploi est désormais de 8,7% de la population active. Décryptage du chef du service économie d'Europe dans un instant. Et puis J-10, les élections européennes du 26 mai. Les Républicains réussiront-ils à créer la surprise? Meeting offensif hier soir de François-Xavier Bellamy devant des militants motivé.
8h12, Vincent Hervouette, les États-Unis et l'Iran font sonner les tambours de guerre, mais les tambours seulement 8h15. Audrey Crespo-Mara reçoit Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture.
Europe 1.
Et voilà qu'Angela Merkel accorde une interview à la presse allemande avec dans le viseur la France, ou plutôt Emmanuel Macron, avec qui elle admet vivre, je cite, des confrontations. La chancelière évoque aussi des différences de mentalité. Enfin, selon elle, les deux dirigeants ne partageraient pas la même compréhension des rôles. Bref, le couple bat de l'aile. Et la proximité des élections européennes n'y est pas pour rien. Décryptage de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Chez les conservateurs allemands, à la CDU, on parle désormais ouvertement de rendez-vous raté entre Merkel et Macron. Un rendez-vous avec l'histoire que nous gâchons chaque jour davantage. Ce sont les mots exacts d'un élu de haut rang ici dans la famille politique de la chancelière. Et ça commence à se voir. Lors du dernier sommet européen à Sibiu, en Roumanie, les deux dirigeants se sont évités. 10 jours avant, ici à Berlin, devant leurs homologues des pays des Balkans, ils ont même ouvertement exposé leurs divergences. On n'avait pas vu ça depuis l'an 2000 et le sommet tendu entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. On savait qu'il y avait des différences de point de vue, mais au moins pour l'image, Berlin et Paris maintenaient une certaine harmonie, une façade que la campagne électorale pour les européennes a fait voler en éclats. Pour Angela Merkel jusqu'au 26 mai au moins, Emmanuel Macron est un adversaire. Notre adversaire principal, disent même certains, qui ont peur qu'il dynamite le paysage politique européen. La droite allemande ne veut pas se laisser faire et répond aussi par provocation, comme par exemple quand elle demande de retirer le Parlement européen à la ville de Strasbourg, quitte à saboter la relation de confiance historique entre les deux pays. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et Emmanuel Macron a réagi hier soir depuis l'Élysée. Il accepte ce mot de confrontation, mais il le qualifie. Écoutez.
Je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile, je crois à la confrontation féconde. Et donc, nous devons réussir à accepter de ne pas être totalement d'accord sur tout pour avoir le courage d'affirmer ce que nous voulons. Ce qui est attendu de la France en Europe, c'est de dire clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle porte, quelles sont ses ambitions, et ensuite de construire un compromis avec l'Allemagne pour pouvoir avancer. Avec le même esprit de construction et d'avenir qui nous anime, la chancelière Merkel et moi-même.
La confrontation féconde d'Emmanuel Macron qui était au micro de Maud Descamps pour Europe 1.
L'actualité de la matinée, David, ce sont les chiffres du chômage qui sont tombés il y a une demi-heure.
Oui, c'est un très léger recul. Les demandeurs d'emploi représentent selon l'INSEE 8,7% de la population active au premier trimestre 2019. Bonjour Emmanuel Dutheil.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service France d'Europe 1. C'est seulement Emmanuel, 0,1 point de moins par rapport au dernier trimestre 2018.
Oui, sur le papier, on peut même parler de stabilité. Malgré tout, si on regarde sur une plus longue période, on peut se dire que même si c'est très léger, il y a bien une vraie tendance à la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Quelques éléments. 8,7% de la population active au chômage, c'est du jamais vu depuis début 2009. Le taux de chômage a lui reculé d'un demi-point depuis début 2018. Là aussi, si on regarde sur un an, ce sont les jeunes qui profitent le plus de la baisse et en particulier les jeunes femmes, pour qui même c'est très notable. Ce qui est aussi encourageant, c'est que l'INSEE note une très forte baisse des personnes qui ne sont pas considérées comme chômeurs, mais qui cherchent quand même un emploi. Donc, il y a bien une amélioration, mais le gouvernement va devoir aller beaucoup plus vite pour espérer atteindre son objectif de 7% de chômeurs d'ici à la fin du quinquennat.
Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil, merci à vous Emmanuel. Et puisque l'on parle d'emploi, édition spéciale. Ce soir, de 17h à 19h, Europe 1 s'installe à la Station F, le plus grand campus de start-up au monde. C'est à Paris. Mathieu Béliard et son équipe vous parleront des métiers de demain.
Le procès de Patrick et Isabelle Balkany, le maire de Levallois, a assuré le spectacle hier.
Oui, pendant près de 4 heures, il a invoqué un héritage familial pour expliquer son train de vie fastueux et les liasses de billets. Quant à Isabelle Balkany, vous le savez, elle a tenté de se suicider le 1er mai dernier. Elle se remet et n'est pour l'instant pas apparue à la barre. Mais son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr, promet qu'elle viendra se défendre.
Elle n'a jamais été aussi bavarde et elle a envie de parler, de se défendre. Pour l'instant encore, ce sont ses médecins qui lui interdisent de venir. Mais on a bon espoir que d'ici la fin de l'audience, elle puisse venir. En tout cas, c'est ce que je dis depuis le début, ce sont les médecins qui décident. Ma cliente s'exprimera, vous le verrez, je sais que vous l'attendez. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus.
Maître Pierre-Olivier Sûr, l'avocat d'Isabelle Balkany, au micro Europe 1 de Salomé Legrand.
Europe 1.
À suivre dans le journal J-10, les élections européennes, c'est le 26 mai. François-Xavier Bellamy parviendra-t-il à créer la surprise pour les Républicains? À tout de suite.
Votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal avec David Doucan, la campagne des élections européennes, dernière ligne droite.
Oui, La République En Marche et le Rassemblement National en tête dans les sondages aimeraient installer un duel, mais il y a 34 listes et une famille politique qui pourrait créer la surprise, c'est la droite. Sauf que, après une remontée dans les sondages, la liste Les Républicains tente à stagner. Alors hier soir, François-Xavier Bellamy, entouré des ténors du parti, a jeté toutes ses forces dans la bataille en meeting au Palais des Congrès à Paris. Reportage Aurélie Herbemont.
Plus de 3500 personnes enthousiastes et un objectif, faire le plein des voix de droite. Laurent Wauquiez tape sur l'exécutif.
Le Premier ministre s'en est pris à ce qu'il appelle la droite Trocadéro. Mais ce n'est pas la droite Trocadéro qu'il n'aime pas. C'est la droite tout court qu'il n'aime pas.
À la tribune, tous dénoncent le duel entre En Marche et le RN, François-Xavier Bellamy en tête.
Monsieur Macron nous dit « mon grand but, c'est de battre Madame Le Pen ». Madame Le Pen nous dit « mon grand but, c'est de battre Monsieur Macron ». Eh bien nous, notre seul but, c'est de répondre aux inquiétudes des Français, c'est de résoudre les problèmes des Français.
Il va falloir être convaincant dans les 10 jours qui viennent, dit-il. Ces sondages plafonnent, mais les militants sont motivés.
Je pense qu'il va certainement réussir quelque chose d'invraisemblable.
Combien ?
25 ou 30, facilement. Parce que
ah oui, quand même.
Les autres, ils sont nuls.
Sur le terrain, on fait tout pour.
Vous pensez qu'il peut faire combien ?
18, au moins, et j'espère.
LR ne serait pas contre un coup de pouce de Nicolas Sarkozy dans la dernière ligne droite, mais l'ancien président n'a pas prévu de s'exprimer.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Direction Caen en Normandie, David, où se tient aujourd'hui un concours d'éloquence sur le thème des droits de l'homme.
Oui, et notre jeunesse a du talent. 40 collégiens vont s'affronter dans un amphithéâtre. C'est le Mémorial de Caen qui organise cette compétition. Cela s'appelle 180 secondes pour les droits de l'homme. Ils n'auront tout à l'heure donc droit qu'à 3 minutes chacun pour plaider une cause et convaincre le jury. Marguerite Lefebvre a rencontré pour Europe 1 quelques-uns des candidats. Ils y vont pour gagner, vous allez voir.
Il s'apprête à monter dans le train direction la Normandie. Raphaël et Talia répètent depuis 6 mois et vont enfin présenter leur projet devant le jury.
Bah là, je suis en stress. J'ai pas trop l'habitude de faire des concours comme ça.
On est vraiment heureux de représenter tous les danseurs partout dans le monde. On a décidé de dénoncer des situations dans lesquelles la danse n'est pas acceptée.
En Iran, 6 jeunes ont fait 6 mois de prison et ont reçu 91 coups de fouet pour avoir posté une vidéo d'eux dansant et chantant sur Pharrell Williams.
La scénette de ces 2 collégiens de Clamart a été sélectionnée parmi près de 400 candidatures. Des danses, des pièces, des plaidoiries pour dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme.
Il y a peu de temps, en Irlande, un homme de 27 ans a été acquitté d'un viol sur mineur. La raison ? La victime de 17 ans portait, d'après le tribunal de Cork, un sous-vêtement jugé trop indécent pour que cela n'indique un consentement potentiel.
Chaque jour, je ramasse, trie les déchets électroniques que les pays occidentaux nous déversent par masse. Je suis mineur, pourtant je travaille. Hélas.
24 projets ont ainsi été retenus pour disputer cette finale. Ils seront présentés tout à l'heure en 180 secondes, pas une de plus.
Reportage signé Marguerite Lefebvre pour Europe 1. Et enfin, Pierre, sachez-le, un lapin a été vendu 91,1 millions de dollars.
Oui.
Alors, ce n'est pas un vrai lapin, c'est une sculpture, bien sûr, une sculpture du plasticien américain Jeff Koons, un moulage en acier d'un lapin gonflable. Les enchères étaient organisées par la maison Christie's à New York et c'est un record. Jamais une œuvre d'un artiste vivant n'avait été vendue aussi cher. Donc si vous ne l'avez pas dans l'œil, The Rabbit, c'est le titre de cette œuvre, vous allez sur europe1.fr, il est en photo.
Merci, c'était le journal de David Doucan. Je vous rappelle que la French Tech est au goût du jour aujourd'hui sur Europe 1 à 17h. Mathieu Belliard en direct de la station F. Et à 13h, Raphaël Duchemin fait une spéciale Vivatech dans La France Bouge.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Et il est 8h11, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Pierre.
Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre.
Bonjour
à tous.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a dénoncé cette nuit l'escalade des tensions provoquées par les Américains dans le Golfe.
Oui, alors heureusement que Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, vienne jurer au Kremlin qu'il ne cherchait pas la guerre avec l'Iran après avoir envoyé sur zone un porte-avions, des bombardiers stratégiques, une batterie de missiles Patriot. Et puis heureusement que le guide suprême Ali Khamenei a renchéri sur son site officiel « il n'y aura pas la guerre ». Provocation, gesticulation, protestation, quel tintamarre depuis le début de la semaine. Hier, les diplomates américains à Bagdad ont mis leurs casques lourds. Ceux qui ne sont pas indispensables sont renvoyés à la maison. Washington prétend que les Iraniens s'apprêtent à attaquer. Où, quand, comment ? Mystère. La seule question qu'on ne pose pas, c'est pourquoi ? Parce que Donald Trump diabolise les mollahs et il est prêt à les accompagner en enfer. Hier, d'ailleurs, des instructeurs allemands et néerlandais qui forment l'armée irakienne ont suspendu par prudence leur mission. On imagine qu'ils sont descendus aux abris. Peut-être faut-il leur envoyer une cellule d'aide psychologique. On se demande d'ailleurs ce que ces militaires européens qui n'ont jamais fait la guerre peuvent bien apprendre à des militaires irakiens qui n'ont connu que ça depuis 1980. Peut-être le pas de loi ou alors la musique militaire avec fifre ou bien les conventions de Genève.
Et il y a d'autres mystères du Golfe.
Ouais, on se demande qui a saboté dimanche les tankers qui ont dû se mettre au mouillage en face des Émirats. Des explosions auraient endommagé les coques. Il y a des pirates qui portent des palmes, on appelle ça des nageurs de combat. On s'étonne aussi que les rebelles du Yémen aient bricolé tout seuls les drones qui ont bombardé des installations pétrolières à 1000 km de leur base, forçant les Saoudiens à fermer l'oléoduc qui débouche sur la mer Rouge. Dans les deux cas, les détails sont obscurs, mais le tableau est lumineux. Les oléoducs, qui permettent aux Saoudiens d'exporter leur brut sans passer par le détroit d'Ormuz, sont fragiles, les pétroliers aussi. Autrement dit, les Arabes du Golfe ne pourront pas vendre davantage de pétrole pour compenser celui que les Iraniens ne peuvent plus livrer pour cause d'embargo américain. Le malheur des Mollahs ne fera pas le bonheur de Mohamed Ben Salman. Si l'Iran plonge, ses voisins seront trempés. Côté américain, le message, c'est la pression maximale. L'accord sur le nucléaire a été dénoncé il y a un an pile parce que Téhéran refusait de le renégocier. Mike Pompeo et John Bolton jouent les faucons. Donald Trump joue les vrais. Tweetant cette nuit, je suis sûr que l'Iran voudra bientôt discuter. Tout ce tintamarre, c'est comme au concert quand les musiciens accordent leurs instruments. On entend les tambours de la guerre. Mais on peut écouter ça aussi comme le début d'un dialogue avec toujours le risque d'un couac.
Merci Vincent Hervouet pour cet édito international.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique d'Europe 1. Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Eh bien écoutez, c'est aujourd'hui que le fameux rapport parlementaire sur le glyphosate est présenté. Le glyphosate plus ou moins cancérigène que la charcuterie? Eh ben, c'est pas si simple, on essaiera d'y voir plus clair. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui figure parmi les personnalités fichées par Monsanto, sera mon invité.
A tout de suite sur Europe.
Il est 8h14. Il est 8h16, Pierre de Villeneuve.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Didier Guillaume.
Bonjour.
Êtes-vous réellement convaincu que le glyphosate utilisé dans les pesticides est un produit dangereux?
Oui. Oui, c'est un produit dangereux. C'est pour ça que le gouvernement souhaite en sortir. Et c'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'il fallait quitter le glyphosate, sortir de la dépendance au glyphosate en 2021.
Pourtant, un rapport parlementaire sur le glyphosate est présenté aujourd'hui et l'un de ses auteurs affirme qu'il n'existe aucune preuve que le glyphosate soit vraiment cancérigène.
Après, c'est le débat scientifique, c'est le débat du principe de précaution. Les agences indépendantes de santé ne sont pas toutes en ligne sur la dangerosité pour l'homme. Elles sont en ligne sur la dangerosité pour l'environnement. Dangereux pour l'environnement. Pour l'homme, on voit bien que ce qui se passe, on voit bien ce qui s'est passé avec M. François qui a gagné son procès.
L'agriculteur.
Bon, on voit bien que c'est dangereux pour l'homme. Est-ce que c'est cancérigène sur les agences? N'en sont pas certaines apparemment. Mais en tout cas, il faut sortir du glyphosate.
Alors prenons l'OMS. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a classé le glyphosate parmi les produits probablement cancérigènes. Est-ce que ça suffit pour décider d'en interdire l'usage?
Oui, ça suffit. C'est le principe de précaution. À partir du moment où c'est probablement cancérigène, le gouvernement et moi-même sommes là pour défendre, pour protéger la sécurité, la santé de nos concitoyens.
L'OMS a classé la viande rouge dans la même catégorie que le glyphosate, le groupe 2A, celui des produits probablement cancérogènes. Faut-il prendre des mesures pour limiter la consommation de viande rouge?
Mais aujourd'hui, les gens limitent la consommation de viande rouge.
Est-ce qu'on les alerte suffisamment sur la dangerosité?
Oui, je le pense. Le salon de l'agriculture, c'était uniquement là-dessus. Les stands de la viande, c'était flexitarien. On mange de la viande comme on en veut. Enfin voilà, moi, je veux pas comparer la viande rouge et le glyphosate.
C'est dans la même catégorie,
oui,
hein, pourtant.
Oui, d'accord, c'est là. Mais il y a plein de choses dans la même catégorie. Les cigarettes sont totalement cancérogènes, on ne les interdit pas. Bon. Donc la prohibition, ce n'est pas ça le sujet. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens, simplement, que le principe de précaution doit s'appliquer et que le gouvernement décide d'arrêter d'interdire le glyphosate et que en ce qui concerne la viande, il faut manger de la viande, on mange de la viande comme on veut. Peut-être moins qu'on en mangeait à l'époque, mais bien sûr.
Toujours selon l'OMS, il y a pire que le glyphosate et la viande rouge, c'est la charcuterie. Là, on passe dans les catégories des produits dont le caractère cancérogène ne fait pas de doute. Alors, faut-il surtaxer le saucisson comme surtaxe les cigarettes?
Adressez-vous à un professeur de médecine ou pas à un politique. Si vous me parlez à moi...
C'est responsabilité.
Si vous me parlez à moi...
D'alerter sur les dangerosités de la charcuterie,
bien sûr, mais tout le monde sait qu'il ne faut pas n'importe quel médecin, surtout quand on a mon âge, quand on fait des prises de sang, on dit si vous mangez trop de charcuterie, le cholestérol, etc. Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette aventure. Je crois que le sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est de se dire que la France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate et le premier pays au monde à faire baisser sa dépendance aux produits phytosanitaires en 2025 de 50%. Premier pays au monde.
Didier Guillaume, la France a attendu 1997 pour interdire l'amiante, alors que le Parlement européen dénonçait son caractère cancérigène depuis 1978. Est-ce qu'on ne risque pas le même genre de scandale sanitaire avec le glyphosate ?
Ah mais là, nous faisons l'inverse. C'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que le Parlement européen...
On ne l'arrête pas immédiatement.
Le Parlement européen a remis 5 ans pour le glyphosate et nous disons non, 3 ans. Donc nous allons plus vite.
Et pas tout de suite.
Mais tout de suite, c'est impossible, parce que si on disait demain le glyphosate est interdit, on met dans l'impasse toute une partie de l'agriculture française. Qui n'a pas encore d'alternative. Et surtout, nous perdrions notre indépendance alimentaire. Donc il faut faire cette transition. Certes, il faut la faire rapidement, mais il faut permettre à l'agriculture de muter. L'agriculture est en train de muter.
En 2005, le Sénat a publié un rapport accablant contre les lobbies industriels qui ont retardé, par exemple, l'interdiction de l'amiante. Dans le cas du glyphosate, est-ce que le lobbying de Monsanto contribue à retarder son interdiction ?
Enfin, je ne sais pas répondre à votre question. En tout cas, en ce qui concerne la France...
Il n'y a pas de pression en France.
Il n'y a pas de pression.
De Monsanto.
Je ne vois pas qui mettrait des pressions. Nous décidons d'interdire le glyphosate, nous l'interdisons. Nous ne demandons pas l'avis à M. Monsanto, à M. Bayer ou à M. je ne sais pas trop qui.
Didier Guillaume, on a découvert que Monsanto fichait les opposants au glyphosate. Vous avez été classé dans la catégorie des détracteurs de ce produit.
Oui, ben c'est une médaille. C'est une médaille que j'affiche à ma veste. Je suis assez content d'être détracteur de ce produit. Moi qui ai fait de mon département le premier département bio de France, je suis très content d'être détracteur de tous ces produits. Moi, ce qui m'importe, c'est la transition agroécologique. C'est pas des mots, c'est que l'agriculture se fasse le mieux possible. Pas comme on l'a fait ces 40 dernières années. Et en même temps, je ne jette pas la pierre à ceux à qui on a demandé, après la Seconde Guerre mondiale, de nourrir la France et de nourrir l'Europe.
L'agriculture intensive.
Oui, l'agriculture intensive. Et je veux quand même rappeler que notre alimentation, elle est saine, elle est sûre, elle est durable et elle n'empoisonne pas les gens.
Vous disiez, c'est un scandale ce fichage de Monsanto ?
Oui, c'est un scandale, oui.
Vous le vivez comme ça ?
Bah, écoutez, qu'est-ce que c'est ? On vit en démocratie, on est fiché que c'est cette histoire. Donc, il y a les organismes dépendants du ministère de l'Agriculture qui portent plainte, comme l'INRA, d'autres le font. La justice fera son œuvre, on verra ce qui se passera.
Alors, en tant que détracteur de Monsanto, est-ce que ça vous a également réjoui d'apprendre que cette multinationale a été condamnée par la justice américaine et qu'elle va devoir verser 2 milliards de dollars à un couple atteint d'un cancer lié au glyphosate ?
Mais ça ne m'a pas réjoui, 2 milliards de dollars, c'est même pas ce que ça veut dire. Non, ce qui m'importe, moi, c'est qu'aujourd'hui, la justice, lorsqu'il y a des maladies avérées d'agriculteurs, fasse son œuvre et condamne. Et j'ai rencontré dernièrement M. Paul François, céréalier en France, qui a mis une dizaine d'années de combat contre Monsanto, qui a gagné son procès, qui va être indemnisé. Et je crois que c'est très important, si des agriculteurs ont réellement la maladie professionnelle liée à ces produits-là, alors c'est normal que la justice fasse son œuvre et que Monsanto soit condamné.
Est-ce que vous souhaitez que le cas de cet agriculteur fasse jurisprudence en France ?
Mais il fera de fait jurisprudence. Il faut d'abord
voir
si...
Mais
on ne peut pas souhaiter cela. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de nouveaux agriculteurs qui aient des cancers ou qui soient malades.
Non, bien
évidemment.
Sûr, mais que ce soit davantage reconnu.
Évidemment, ça sera reconnu. Ouais. D'ailleurs, la France va mettre en place un fonds phyto pour indemniser les agriculteurs victimes des maladies professionnelles. C'est très important. Là encore, ça sera unique. Les avancées que nous avons qu'à ce gouvernement pour interdire le glyphosate, pour arrêter la dépendance aux produits phytopharmaceutiques, pour faire en sorte de reconnaître les maladies professionnelles, c'est d'énormes avancées.
Didier Guillaume, il y a 15 jours dans la Drôme, vous avez dit que qu'à l'avenir, il faudrait revenir à l'agriculture telle que la pratiquaient nos grands-parents. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir produire moins pour protéger la nature ?
Mais non, mais c'est pas du tout ce que... j'ai prononcé cette phrase, mais c'est dans un contexte, j'allais dire, même un peu bucolique. Ce que je veux dire, c'est que Moi, quand je roulais dans ma voiture étant jeune, il y avait des, excusez-moi d'être concret, mais des mouchillons, des moustiques sur les pare-brises. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y a plus de haies. Aujourd'hui, il n'y a plus d'oiseaux qui nichent. Il n'y a plus de biodiversité. Il n'y a plus de vers de terre dans les champs. Je me rappelle qu'on allait à la pêche, on allait chercher nos vers de terre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est revenir à cela. Pour revenir à cela, c'est la transition agroécologique, c'est moins de pesticides, c'est refaire de la biodiversité et c'est faire tout simplement de la rotation des sols. Moi, je ne veux plus voir l'hiver des grands champs labourés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais il faut faire de l'assolement, de la rotation, des semis, des prairies permanentes. C'est ça l'agriculture à laquelle je veux revenir. Mais en même temps, il faut une agriculture qui soit innovante, compétitive. Il faut de la recherche. Je ne veux pas revenir à l'agriculture avec mon cheval et tout cela. Non, il ne faut pas arrêter les caricatures. Ce n'est pas vous, mais je sais qu'elle a été faite, cette caricature.
Elle a été faite par Laurent Alexandre, notamment, puisque vous pensez à lui, j'imagine. Merci beaucoup, merci Didier Guillaume.
Merci Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol et l'essentiel de l'actualité. 8h30, la revue de presse de David Abiker et 8h35, le journal de Cannes et du festival avec Mathieu Charrier.
A tout de suite avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Il est 8h25. L'essentiel de l'actualité, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Et les températures commencent à remonter, Laurent.
Tout doucement, hein, c'est assez lent parce que il a fait très froid ce matin encore, enfin très froid en exagérant, il y a une bonne fraîcheur pour la saison, entre 3 et 8 degrés sur beaucoup de villes, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Strasbourg, Caen, 3 et 5, 7 à Lyon, 8 à Lille, 9 à Paris et 11 degrés à Toulouse. Dans l'après-midi, l'amplitude sera assez grande, entre 15 et 25 degrés, 15 de là où le vent d'est-nord-est souffle encore, Langres, Belfort, Épinal, Caen, etc. Même Paris, ils auront un petit vent d'est et il ne fera que 18 degrés, comme à Sedan, comme à Lille et Colmar. 19 à Nantes, 20 degrés à Marseille, 23 à Toulouse, 24 à Auch et 25 à Cahors. Ce sera une journée où le soleil est assez présent dans l'ensemble, même très présent, un peu moins que ces jours derniers. Des nuages d'altitude sur la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée. Ces nuages d'altitude vont gagner la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Béarn dans le courant de l'après-midi. Et puis pour d'autres raisons, nous aurons aussi des passages nuageux sur le nord et sur les frontières du nord et du nord-est, les Ardennes, la Meuse, la Moselle, l'Alsace, le Doubs, etc. Bon, allez, on ne va pas se plaindre. La chaleur est raisonnable. Les prairies se régalent, les jardins sont fous de joie et nous allons donc profiter de ce type de temps, d'autant que demain, je vous l'ai dit, il va pleuvoir. Là aussi, ça va faire plaisir à la terre, mais nous aurons, nous, êtres humains, français surtout, on va quand même se plaindre parce que sur la moitié sud, les pluies sont assez présentes.
Ça m'étonne pas de vous.
Et même très présentes.
Merci Laurent Cabrol.
7h-9h. 2 heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le jeudi 16 mai, toute l'actualité à 8h30 avec vous Pierre Delino.
Le taux de chômage au plus bas depuis 10 ans en France, une baisse de 0,1 point au premier trimestre, soit 8,7% de la population active. Publication aujourd'hui du rapport d'information parlementaire sur le glyphosate dangereux ou pas pour la santé. Aucune réponse tout à l'heure de l'un des rapporteurs, Cédric Villani, qui dit que c'est justement les différentes associations et les différentes instances qui apporteront ce genre de réponse. Journée importante pour les 800 ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens. Les prud'hommes rendent leur décision sur leur licenciement qui avait donné lieu à un bras de fer de plus de 6 ans. Le chef de l'État passe la matinée au Salon de l'innovation et des startups, Vivatech, qui ouvre ses portes à Paris. Émission spéciale de La France qui bouge à 13h. Europe 1 qui s'installe également ce soir à Station F, le plus grand campus de startups au monde. Rendez-vous de 17h à 19h avec Mathieu Béliard.
Europe 1.
Et il est 8h31, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Pierre.
Et David, à la une ce matin, une formule, tout fout le camp.
Eh oui, tout fout le camp, c'est ce qu'on se dit en lisant ce matin Ouest France. Tout fout le camp a commencé par le Choco BN. Le Choco BN dont Carrefour ne veut plus. Le Choco BN, il est 4 heures à la bonne heure, sortez du placard les 4 heures. Vous vous souvenez de la pub? Eh bien, ce biscuit au chocolat fabriqué par l'usine de Vertoux près de Nantes ne se vend plus aussi bien, nous dit Ouest France, plus aussi bien qu'avant. Et derrière cette remise au placard, les goûts qui changent, l'encadrement des promos et l'usine qui peine à se diversifier pour séduire le distributeur. Bref, si le Choco BN n'est plus en vente à Carrefour, c'est que tout fout le camp. Tout fout le camp comme l'amitié franco-allemande à la une des quotidiens. Le couple Macron-Merkel bat de l'aile, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le Figaro reprend le mot de confrontation employé par Angela Merkel dans une interview à paraître aujourd'hui dans la presse allemande. Tout fout le camp comme la classe moyenne qui fait aussi la une du Monde, qui explique comment La République En Marche et Les Républicains se disputent son vote. Mais justement, si vous lisez Le Point cette semaine, vous saurez que la classe moyenne, eh bien, elle est en train de foutre le camp, elle aussi.
Et oui, Le Point qui explique comment la classe moyenne a volé en éclats.
Et Le Point qui cite la dernière étude explosive du sondeur Jérôme Fourquet pour la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Fourquet qui réinterprète la disparition de la classe moyenne à travers la façon de consommer des gilets jaunes, ce qu'il appelle cette classe moyenne en voie de démoyennisation. Elle s'accroche, la classe moyenne, elle se débrouille pour garder son rang. Comment ? Eh bien en consommant vaille que vaille chez ceux qui la comprennent. 1988, Lidl ouvre son premier magasin discount en France. 1994, arrivée de la chaîne Cash Converters. 1995, création de l'enseigne Le Faillitaire. En devenant client de ces enseignes à bas prix, la classe moyenne résiste. Comment gère-t-elle l'arrivée d'Amazon qui séduit les urbains et les bobos ? Eh bien, cette France qui décroche plébiscite, elle, Le Bon Coin et pas Amazon. Le Bon Coin, c'est l'internet de proximité, c'est le bon tuyau, c'est le système D, la rencontre entre êtres humains, le local, l'échange et le troc, et une solidarité qui a totalement échappé à Amazon. Le Bon Coin, c'est le métro aux heures de pointe où se retrouve une France qui s'accroche à son petit pouvoir d'achat et qui refuse de foutre le camp, qui refuse la démoyennisation et qui va peut-être voter populiste.
Et voilà que le populisme fait la une du Point et de l'Obs.
Le populisme, c'est d'abord Salvini à la une du Point, nouvel homme fort de l'Europe. Et souvenez-vous, il y a un an et demi, c'était qui le nouvel homme fort de l'Europe ? C'était Macron. Mais les gilets jaunes sont passés par là et on retrouve Salvini et les populiste à la une de l'Obs. Vivre sous le populisme, comme si l'Europe des Monet, des Jacques Delors et autres sociaux libéraux et démocrates était définitivement derrière nous. C'est une certaine Europe qui a foutu le camp si on lit l'Obs et Le Point. Et inversement, vous avez des idées, des valeurs qui s'accrochent, qui ne cèdent pas un pouce de terrain. Vous avez d'abord l'héroïsme qui revient, tristement, au premier point, au premier plan, avec les visages de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello dans leur uniforme immaculé. Ils portent beau en une de Paris Match qui rend hommage aux héros disparus du commando Uber. Elles ont pris d'assaut aussi la une de Valeurs Actuelles, qui ça ? Les féministes, Valeurs Actuelles qui titrent cette semaine sur la nouvelle terreur féministe. Ces féministes qu'on retrouve derrière la pétition qui exige qu'Alain Delon ne soit pas récompensé dimanche à Cannes en raison de propos sexistes, machistes, insultants, beauf donc, qui auraient imaginé qu'un jour des femmes veuillent déboulonner l'icône mâle et glamour du cinéma français. Delon qui disait hier dans le Figaro « on m'aime ou on ne m'aime pas ». Mais on ne peut pas contester ma carrière. Delon qui disait la même chose il y a 20 ans à la radio-télévision suisse, c'est à croire qu'il s'adresse aux réseaux sociaux qui n'existaient pas encore.
On sent une telle rancœur, on sent une telle jalousie. Parce que quoi ? Parce que j'ose dire que j'ai du talent dans l'exercice de ma profession. Oui, j'ai du talent. Oui, je fais un métier que j'aime et je le fais bien et je vous emmerde.
Je vous emmerde, Alain Delon, dont Le Point nous rappelle que son premier film s'appelait... Comment il s'appelait le premier film d'Alain Delon ? Quand la femme s'en mêle, Delon qui lui non plus ne lâche rien en vieux samouraï qui refuse de foutre le camp.
David Abiker, le vieux samouraï qui a du talent lui.
Il est 8h34, on part sur la croisette. Pierre rejoindre Mathieu Charrier au Festival de Cannes.
Europe 1, le journal du festival.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin.
Le premier film français en compétition qui a remué la croisette hier soir. Nous avons aussi rencontré Monsieur Enki Bilal, membre du jury. Et puis les indiscrétions, je vous parlerai du prochain film dans lequel va tourner Benoît Poulvorde.
Ah, ça commence bien. Quelques notes d'Elton John, très belle chanson. Elton John attendu ce soir sur le tapis rouge.
Ouais, Sir Elton John qui vient présenter un biopic qui lui est consacré, ça s'appelle Rocketman. Il raconte la métamorphose du jeune Reginald Dwight en pianiste virtuose mondialement connu. Rocketman qui est donc projeté ce soir, mais hors compétition.
Monsieur Charrier a un journal à faire, mais sinon on la passerait en entier cette chanson Rocketman. Allez, retour à la course, à la Palme d'Or, Mathieu, avec un film sur le quotidien de la banlieue française qui a secoué la croisette hier soir.
Oui, ça s'appelle Les Misérables, le premier long métrage de Lajli, dans lequel on suit trois policiers de la BAC au cœur des cités de Montfermeil. Entre les grands frères qui n'ont plus l'oreille des jeunes, les caïds marginalisés, une jeunesse abandonnée, le constat est rude, il est donc dressé par Lajli.
Nous, ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes, ça fait 20 ans qu'on revendique nos droits, ça fait 20 ans qu'on se prend des coups de flashball dans la gueule, on a tous des marques dans le corps. Et on a l'impression avec des gilets jaunes, on vient de découvrir que la police est violente, que les flashballs c'est violent. Et moi, ça va faire 15 ans que je filme mon quartier, et surtout raconter l'univers des quartiers, raconter la misère. Tout est vrai dans le scénario.
La Jli qui cite comme référence La Haine de Mathieu Kassovitz, autre film présenté hier soir en compétition, Bakuro, formidable long métrage brésilien, mélange de films d'anticipation, de thriller, de films politiques. La compétition est bel et bien lancée.
Bon, on a bien compris que le jury était au travail. Chose rare, Mathieu, l'un de ses membres s'est confié à vous.
Enki Bilal, auteur de BD, qui fait partie effectivement avec le réalisateur Robin Campillo des deux Français membres de ce jury sous la présidence d'Inaritu. Alors comment vont-ils travailler ?
Clint Eastwood, quand il était président, il est arrivé en disant « ce serait Tarantino ». Je ne pense pas qu'il le fasse lui. On va avoir 3 ou 4 rendez-vous tout au long de ces 13 jours, donc on ne va peut-être pas sortir tous les soirs. En fin de compte, je pense que c'est le film lui-même qui va me prendre ou pas.
Voilà, il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices dans le jury, ainsi qu'Elle Fanning, la star américaine de seulement 21 ans, qui est donc la plus jeune jurée de l'histoire du festival.
Et on termine, Mathieu, par vos indiscrétions.
Savez-vous combien mesure le tapis rouge ?
Pas du tout.
60 mètres, il est changé 3 fois par jour, ce qui veut dire qu'il faut près de 2000 mètres de tapis rouge pour tenir toute la durée du festival. Et puis je vous annonce que Benoît Poulvord va bientôt tourner avec Jean-Pierre Améris, avec qui il avait déjà fait Les Émotifs Anonymes. Cette fois, ils vont adapter le roman Profession du Père de Sorge Chalandon, qui avait très bien marché lors de la rentrée littéraire 2015.
Ah oui, ça je vous le confirme. Merci Mathieu Charrier, le journal de Cannes, tous les matins sur Europe 1 à 8h35.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Ne bougez pas, il arrive l'insortable Nicolas Canteloup et son festival La Revue de Presque. C'est dans un instant, à tout de suite.
Excellente matinée avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1, il est 8h37. Il est 8h40.
Et voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. On va revenir sur le titre principal de l'actualité avec, bah avec Nikos quand même.
Ouais,
voilà,
ouais,
bah oui,
bien sûr. Salut Julie, salut Pierrot.
Salut.
Salut à tous. Eh bien, j'ai beau avoir laissé les clés du camion à l'ami Pierre de Villeneuve ce matin, je continue, je ne lâche rien. Je continue à bosser pour vous présenter l'actu surround de ce matin. Et notamment une grande enquête que je suis en train en ce moment même de mener pour savoir comment on peut prendre son petit déjeuner au lit sans faire de miettes partout. Je transmettrai les résultats de mon enquête à Anicet Bida, peut-être a-t-il des solutions. Alors croissant ou pain au chocolat, lequel fait le moins de miettes?
Non, écoutez, merci, mais ça ne nous intéresse pas. Non, c'est bon. Allez, merci Nikos, bon petit déjeuner au lit. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, était ce matin avec nous sur Europe 1. Il a reparlé de ce rapport rédigé par des sénateurs qui déclarent que rien ne permet de prouver que le glyphosate est cancérigène. On est avec le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Madame Julie. Ça parle nourriture, alimentation, c'est un sujet passionnant. Écoutez, bonjour à tous. Écoutez, voilà, les sénateurs ont enquêté, comme Monsieur Aliagas, et les conclusions sont sans appel. Vous pouvez, oui, chers auditeurs, manger du glyphosate. Ne craignez rien. Vous savez, à titre personnel, vous pouvez sourire, mais à titre personnel, à la cantine du Sénat, j'ai imposé cela. Nous mangeons régulièrement des saucisses au glyphosate avec de la purée de pesticides, oui, et au dessert, la petite glace au Roundup. Vraiment. Ça, c'est le menu du jeudi midi. Voilà. Monsieur de Villeneuve, peut-être une petite saucisse
non,
au glyphosate.
Non, mais sans façon.
Oh, avec une tasse de café phytosanitaire.
Non, écoutez, la grande question ce matin, c'est donc, le glyphosate est-il plus ou moins cancérogène que la charcuterie?
Qu'est-ce que vous insinuez? Que la charcuterie serait cancérigène? Non mais attendez, j'ai pris 4 tartines de rillettes avec mon café au lait ce matin. Vous me dites que c'est du poison. Non mais vous insinuez que je vais avoir des métastases pur porc, c'est ça? Que je devrais manger sain bientôt, du bon glyphosate. Alors écoutez, non, il me faut donc du bon glyphosate très sain qui ne donne pas le cancer, étalé sur une baguette tradition.
Bon appétit. Merci Monsieur Larcher. La campagne pour les européennes se poursuit sur certaines affiches de la liste En Marche de Nathalie Loiseau. Le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît et plus celui de la tête de liste. Bonjour à vous Nathalie Loiseau.
Oui, pardonnez-moi, j'ai un petit
qui participe. Bonjour Julie, ah oui, bonjour oui. Monsieur Vinot, bravo pour cette forme de promotion quelque part. Écoutez, écoutez, bonjour. Oui, au sujet de ces affiches, puisque j'entends de ci, de là, une polémique, parce que les gens n'ont pas envie de positiver sur ces éléments. On a enlevé, oui, mon portrait pour mettre celui du président Macron. Oui. C'est une vraie fierté pour moi de laisser la place au président Macron. Mais ça veut dire que je suis prête à tout pour aider l'Europe. S'il faut laisser le visage de M. Macron pour avoir plus d'électeurs, eh bien, oui. J'y suis prête parce que c'est pour aider l'Europe, y compris laisser ma place sur les affiches pour pouvoir aider ma liste.
On a compris,
Nathalie,
là,
c'est bon. Nathalie, le voilà. Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour
Nathalie. Je t'entendais, ma Nathalie. C'est sympa d'être d'accord pour céder ta place sur quelques affiches. Quelques affiches. Mais je me disais, pourquoi pas toutes les affiches. On pourrait mettre une photo d'autres personnalités, je ne sais pas, comme Kylian Mbappé ou Jean-Jacques Goldman ou même Marilyn Monroe ou un chaton ou une brique de lait ou une chaise de jardin. Au point où tu en es, Nathalie, tout est plus populaire que toi. Alors, si c'est pour l'Europe, c'est OK. Bon, on fait ça. Excusez-moi, je suis prête à tout. Je suis prête à tout.
Oh, ben, on vous souhaite bon courage à vous deux. Hein. On en saura plus dimanche. Le procès Balkany se poursuit. Bonjour, monsieur Balkany.
Oui, bonjour, madame Julie, monsieur De Villeneau. Excusez-moi, c'est mon portable qui sonne, je coupe.
On a découvert pendant le procès que votre sonnerie de portable, effectivement, c'était les tontons flingueurs. Ah bah bravo. Allez, on le rappelle.
Tout à fait.
Ce procès a démarré à la suite d'une plainte de l'agent général du fisc du département de l'Eure en 2015, l'Eure où vous avez donc ce fameux moulin de Giverny, parce qu'il a vu que votre épouse avait déclaré 127 000 euros de revenus et qu'elle en avait pourtant versé 196 000 rien qu'en salaire d'employé de maison. Non, mais on
ça veut tout dire, on gagne 127 000, on dépense 196 000. Ouais. Ça fait un déficit de 69 000 euros. Et on nous accuse, madame Julie Leclerc, de nous être enrichis, alors qu'on a fait passer le bien-être financier de nos employés avant le nôtre, vous l'avez bien compris. Vous savez, avec Isabelle, on dormait sur de la paille pour que la femme de ménage puisse offrir des vacances à Las Vegas.
Oui,
voilà ce que ça veut dire. On est totalement... Vous savez, on nous colle une étiquette, mais on est totalement de gauche avec Isabelle.
Écoutez, ça veut surtout dire qu'il y a de l'argent non déclaré qui se balade. Hein. D'ailleurs, les témoins déclarent qu'il y avait de l'argent liquide absolument partout chez vous.
Oui, ben, ça j'ai déjà dit, c'est un héritage, point.
Bah, depuis quand on hérite en liquide, monsieur Balkany?
Écoutez, vous voulez tout savoir, vous jouez au tribunal, je vous réponds. C'est mon grand-oncle. Et Jessype Tiburce Marcelin Balkany, qui avait amassé une petite fortune en liquide. Bref, alors j'admets maintenant qu'il est mort, on peut le dire. Lui, alors pour le coup, c'était un sacré magouilleur. Vous savez, moi à côté de lui, je suis le bon petit honnête de la famille. Vous verriez les autres dans la famille.
Oh là là, non. Mais franchement,
je vais pas balancer.
Il y avait de l'argent liquide partout, même dans vos peignoirs.
Mais dans les peignoirs, mais est-ce que vous connaissez mon emploi du temps, un emploi du temps de maire d'une ville qui se développe, vous savez, je faisais des rendez-vous sans arrêt, je n'avais même plus le temps de faire ma toilette, ça m'arrivait donc des fois de recevoir un responsable d'office HLM dans ma baignoire, on discutait contrat de chantier, de construction, dans un bain avec de la mousse qui sentait la violette, et parfois, il fallait, parce qu'ils me mettent la pression ces gens-là, il fallait verser un acompte tout de suite, alors forcément, il fallait avoir des liquidités dans le peignoir, voilà, je n'avais pas de vie à cette époque.
Oui, c'est ça. Non, écoutez, il n'y a pas que la question de l'argent liquide, il y a aussi des propriétés. La Villa Pamplemousse, par exemple, bah, c'est par un montage financier très complexe de sociétés offshore que vous avez pu...
Non, mais tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. De toute façon, on exagère beaucoup avec cette Villa Pamplemousse. Une villa plutôt mandarine, vous voyez, mais c'était une... Oh.
Tiens, c'est drôle.
Mais c'était une... Quoi, c'est drôle? Attendez, ça fait 6 minutes que je cause dans votre micro et vous me dites c'est drôle à la 7e minute. Non, mais vous êtes gros. La Villa Pamplemousse, c'est juste une petite bicoque. sans prétention. Mais oui, c'est juste qu'on lui a donné un nom pour que ça fasse ronflant, pour faire joli, un peu par prétention, évidemment. On a choisi Villa Pamplemousse, parce que ça fait chic, on est tous comme ça, que voulez-vous. On n'a pas allé l'appeler la maison salsifie ou la cabane pomme de terre. Ah, excusez-moi, c'est encore mon portable.
Oui, bah allez-y alors, et on vous laisse, tiens, merci, oui, merci Patrick Balkany.
C'est Moretti, Dupont Moretto.
En ce moment, c'est le Festival de Cannes. Mardi, c'était l'ouverture avec un film de zombies de Jim Jarmusch. François Cluzet, bonjour.
Merde. Julie, merde, il est où? Il est où le Cannes qu'on aime, là? Il est où? Moi, Cannes, j'y vais pour me taper un petit coup de blanc, une bourriche d'huître et 4h30 de film ouzbek. Un bon vieux film ouzbek sur un berger unijambiste d'Afghanistan qui essaye de faire vivre un troupeau de moutons qui ont déjà le sida. C'est ça, Cannes.
Bon, pas de film de zombies, alors. Hein. Mais il y a aussi le nouveau Tarantino qui sera présenté mardi prochain. Hein.
Non, mais Tarantino, quoi, merde! Mais ils sont où, les films avec Vincent Lindon, qui a le cancer et qui sauve un sans-papier somalien en lui offrant un emploi dans une usine de pneus de Meurthe-et-Moselle? C'est ça qui nous fait rêver à Cannes! Putain! Elles sont où, les vraies valeurs?
Mais consolez-vous, François Cluzet, il y a quand même un film d'Arnaud Desplechin sur Roubaix et qui parle d'une vieille dame tuée par deux voisines toxicomanes et alcooliques.
Ah bah, ouais. Eh ben voilà! Arnaud Desplechin sur Roubaix qui parle d'une vieille dame tuée par deux voisines toxicomanes et alcooliques. On y est! C'est ça le Cannes qu'on aime! La fête et le champagne! Qui veut venir avec moi? Vilno, ouais. Allez viens, merde, t'es un bon vivant. Des films d'alcoolo. Un film d'alcoolo à Roubaix, ça va te plaire, non?
Merci pour ça que tu sais. Et puis on va revenir sur la polémique, vous savez, sur les zones à risque pour les touristes. Le Quai d'Orsay doit-il interdire tout simplement certains pays aux voyageurs? On va en parler avec un professionnel du tourisme, on l'appelle tout de suite.
Bonjour et bienvenue aux Hôtels Accor. Les Hôtels Accor sont heureux de vous accueillir dans des complexes luxueux, dans des pays mondiaux, répartis de façon harmonieuse tout autour du globe. Envie de vous reposer, de ne plus avoir les poumons tout oxydés par le mode de vie de l'Occident qui oxyde? Les Hôtels Accor vous proposent un large éventail de destinations exotiques et sans danger, signalées par le Quai d'Orsay. Pour une cure de repos inoubliable, les Hôtels Accor vous offrent un large choix de chambres garanties sans kidnappeurs djihadistes cachés dans les penderies et proposent à la place cintres et penderies pour suspendre vêtements et sous-vêtements. Envie de vous relaxer pendant une excursion tout en pittoresquité? Les Hôtels Accor vous promettent des paysages inoubliaux où les ravisseurs extrémistes brillent par leur absence et sont avantageusement remplacés par des monuments antiques et des animaux forestiers amusants et gambadeurs. Envie de rentrer chez vous reposer? Les Hôtels Accor vous promettent un retour sans Emmanuel Macron qui vous attend, avec des généraux qui vous font la gueule sur le tarmac de Villa Coublet. Alors, à bientôt dans les Hôtels Accor.
Merci, c'était Nicolas Canteloup. On remercie Julie aussi et les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Le tour de la question tous les matins, 9h-11h, au sommaire. Bonjour ma chère Wendy.
Bonjour cher Pierre, bonjour à tous. Deux sujets, le premier sur les colonies de vacances. Sont-elles accessibles à tous pour vous? 1 million d'enfants y partent chaque année et le gouvernement veut booster ces formules. On reviendra sur leur sens en termes d'intégration et de mixité. Et puis à 10h, prenons-nous assez soin de notre cœur. 33% des infarctus sont liés au stress, figurez-vous. Nos modes de vie sont directement aussi en cause dans ces maladies cardiovasculaires qui sont la seconde cause de mortalité en France, et on en parle avec des spécialistes, professeurs de cardiologie, chirurgien cardiaque avec nous en studio.
Wendy Bouchard, tout à l'heure, à 9h.
Wendy Bouchard qui attend d'ores et déjà vos appels au 39 21 50 centimes la minute. À suivre la météo et l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Pierre de Villeneuve. Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo avec Laurent Cabrol.
Et vous nous annoncez le dernier jour de printemps, Laurent.
Dernier jour de printemps, en allant vraiment en caricaturant, puisque ce sera encore le printemps, mais un petit peu plus tard. En fait, nous allons avoir une parenthèse qui ressemblera un petit peu au temps que nous avons eu avant le 10 mai, avant le 13 mai, vous voyez, avant les Saintes Glaces. Donc un temps frais, souvent ponctué de giboulées, d'averses, d'orages. C'est un peu ce qui nous est réservé à la fois pour demain et les jours suivants. Et je pense que nous allons renouer avec un temps beaucoup plus printanier à partir de mercredi prochain. Bon, c'est un épisode assez désagréable peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais enfin, nous allons le supporter. Aujourd'hui, quelques nuages d'altitude qui ne sont rien, qui sont juste les prémices de ce qui nous arrive, avec des températures qui sont encore un peu fraîches pour certains, entre 15 et 17 dans l'Est, entre 18 et 20 degrés sur la région parisienne, le centre, la région lyonnaise, et puis autour de 24-25 à Ajaccio, à Montauban, à Cahors et à Auch, dans le Gers. Voilà, mais pour les températures, quant au temps qui va régner demain, eh bien, ce sera surtout de la pluie, mais essentiellement sur les régions du Sud.
Merci Laurent Cabrol.
Nous sommes le jeudi 16 mai, on revient sur les moments forts de cette matinale, Pierre Devineau.
C'est l'essentiel de cette matinale, tout ce qu'il ne fallait pas rater, le rapport très attendu sur le glyphosate, le sujet est explosif, les parlementaires rendent leur enquête cet après-midi. Est-ce un produit dangereux ? Que prévoit le gouvernement ? Réponse du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. C'était l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15.
Oui, c'est un produit dangereux. C'est pour ça que le président de la République a annoncé qu'il fallait sortir de la dépendance au glyphosate en 2021. C'est le principe de précaution. À partir du moment où c'est probablement cancérigène, le gouvernement et moi-même sommes là pour défendre, pour protéger la sécurité et la santé de nos concitoyens. La France va être le premier pays au monde à sortir du glyphosate et le premier pays au monde à faire baisser sa dépendance aux produits phytosanitaires en 2025 de 50%.
La French Tech au goût du jour avec une spéciale Vivatech dans la France qui bouge à 13h. Europe 1 qui pose ses micros à 17h à Station F. Il sera beaucoup question des métiers d'avenir, les métiers de l'intelligence artificielle. On en parlait à 7h45 avec le député En Marche et mathématicien Cédric Villani.
Les enjeux actuels de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça touche tout le monde, tous les métiers, y compris des gens qui ne souhaitent pas programmer. C'est un gisement considérable, la façon que nous aurons de donner aux générations qui viennent à la fois des outils pour s'emparer de la société, pour la transformer et pour travailler ensemble. Ce sont des projets de société dans lesquels le maître en jeu n'est plus la question de la technique, mais bien celui de la confiance.
Et n'hésitez pas à intervenir au 39-21 pour joindre Mathieu Béliard à partir de 17h qui sera donc en direct de Station F. Et puis vous connaissez la saucisse de Morteau. On vous présente aujourd'hui la baguette de Morteau, grande gagnante de la finale du concours national de la baguette française. Arthur Henbacher, vous êtes en ce moment même dans cette boulangerie où tout le monde veut goûter la fameuse baguette. Arthur qui était en direct dans le journal de 7h.
Bien alvéolé, ça doit être des gros alvéoles, donc des gros trous partout dans la baguette en fait. Et avoir une mie vachement jaune. Et là, ça fait une belle baguette quoi.
Des gros trous qui font couler la confiture dans l'assiette.
C'est ça, oui, c'est ça. Ouais.
Inimaginable, c'est vrai qu'on faisait confiance à notre patron, on lui a envoyé des ondes positives. Ça va faire du bruit dans Morteau quoi. C'est un beau cadeau qu'il nous fait.
Le beau cadeau, justement, cette gagnante française, la grande baguette française de Morteau. On le saura. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour cette matinale. On se retrouve demain, ma chère Céline.
Avec grand plaisir, Pierre, à demain.
Et vous êtes entre les mains expertes de Wendy Bouchard.
Pour parler colonie de vacances avec Julie, on vous attend. Vos témoignages au 39-21. À demain, les amis.